Voici le mini-journal présenté par Victoria.
La communauté internationale dans l'attente de la décision du Parlement des Serbes de Bosnie. Les 75 députés doivent se prononcer sur le plan de paix Vansoven, signé dimanche dernier par leur leader Radovan Karadzic. Ce dernier a exhorté les députés à ratifier le plan, soulignant que la menace d'une intervention occidentale était très très réelle en cas de rejet de ce plan. De son côté, le président serbe Milosevic a estimé qu'il n'y avait pas d'autre choix que de se décider en faveur de la paix. Les pays occidentaux préparent d'éventuelles mesures militaires. Après Londres et Paris, le secrétaire d'État américain Warren Christopher a obtenu cet après-midi le soutien du Kremlin. La Russie s'est déclarée prête à participer militairement à l'application du plan de paix en Bosnie. Et Boris Eltsin a menacé d'abandonner les Serbes si ces derniers refusaient le plan Vansoven. Sur le terrain, la guerre continue. Selon une radio amateur, la localité musulmane de Zepa, dans l'est de la Bosnie, est ravagée par des incendies après le pilonnage intensif de l'artillerie serbe. Des blindés serbes seraient arrivés en renfort dans l'enclave musulmane. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence à la mémoire de Pierre Bérégovoy. Avant la traditionnelle séance des questions au gouvernement, Philippe Séguin a fait part de l'intense émotion de l'Assemblée. Les députés socialistes n'ont pas posé de questions aujourd'hui. Le président du groupe RPR à l'Assemblée nationale, Bernard Pons, a déclaré, après le suicide de M. Bérégovoy, que quand on est accusé injustement et qu'on est en paix avec sa conscience, on trouve en soi-même la force de résister. Il est vrai que le combat politique est souvent difficile et que des hommes politiques sont souvent injustement attaqués. Le collectif budgétaire et la réforme du statut de la Banque de France seront examinés lundi prochain en Conseil des ministres. Leur présentation prévue aujourd'hui avait été repoussée après le suicide de M. Bérégovoy. Le rapport Reynaud sur l'état des comptes budgétaires et sociaux sera, lui, rendu public demain. Rapport d'une parfaite objectivité et d'une sérénité au-dessus de toute critique, a assuré M. Balladur. Bonne soirée à tous. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 5 mai de 18 à 21h et en différé le jeudi 6 mai dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Jérôme. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libres, vous pouvez adhérer à notre association. La cotisation minimum pour l'année 1993 est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adressons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Bonsoir. Alors évidemment, on va parler de l'affaire. Ça serait quand même extraordinaire qu'on soit les seuls à pas en parler. Mais je dois vous dire qu'étant donné l'état dans lequel cette histoire me met personnellement, je vais essayer d'abréger parce que je sens que ma courtoisie naturelle ne résisterait pas longtemps. Et donc, le fond de ce que moi j'ai à dire sur cette histoire, si tant est d'ailleurs que j'ai quelque chose à dire, ça sera plutôt dans le Libre Journal imprimé que dans le Libre Journal radio, pour une raison simple, c'est que le Libre Journal imprimé présente l'avantage, là, très clairement, de ne mouiller que moi-même. Et puis, l'équipe du Libre Journal de la France courtoise. Tandis que, quand j'exprime des positions un peu passionnées sur le Libre Journal de Radio Courtoisie, il y a toujours une espèce de malentendu qui traîne, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire comprendre que, sur Radio Courtoisie, chaque libre journal est une entité parfaitement libre et indépendante des autres, et que ce qui est dit dans un libre journal n'engage en aucune manière, évidemment, les autres libres journaux, les autres directeurs d'émissions, que ce soit les émissions de l'après-midi ou du matin. Donc, pour que ce soit bien clair, l'affaire Bérégovoy sera développée d'une façon par mois un peu plus complète dans le Libre Journal de la France courtoise, qui paraît tous les 10 jours. Et dont je donnerai l'adresse tout à l'heure, au cas où on voudrait s'abonner. Ce soir, on en parlera, mais j'essaierai de me retenir. Si je n'y parviens pas, vous voudrez bien m'excuser. Nous recevrons, je vous donne la liste des invités, approximative comme d'habitude, Alain Sanders, qui parlera d'une manifestation très importante qui va se passer samedi prochain. C'est la journée de la mémoire au Palais de la Mutualité, à partir de 20h. Ensuite, nous recevrons Monsieur Michel Grandin. Ça nous reposera un petit peu, ça nous rafraîchira, parce que Michel Grandin a fait un travail incroyable, splendide. Alors Alain, tu vas me dire ce que tu en penses tout de suite. Voilà ce qu'il a fait. Il a fait un livre qui s'appelle « Livre Rivière de France » et qui est un recensement exhaustif de toutes les rivières et tous les cours d'eau.
Y compris la Nièvre.
Y compris la Nièvre, bien entendu. Et le canal,
le canal en question.
De tous les cours d'eau de France, avec pour chacun les aspects techniques, les considérations techniques, mais également un texte qui fait allusion à un aspect anecdotique, historique, littéraire, poétique. C'est un travail extraordinaire, c'est un travail qui sert la tradition, la civilisation française qui irrigue naturellement nos racines. On va parler de ça avec lui. Ensuite, on inaugurera une nouvelle rubrique qui sera régulière dans le Libre Journal du mercredi soir et que j'appellerai les fous du roi. C'est une rubrique que j'ai demandé à Daniel Amich, que vous connaissez, d'animer, et qui recevra tous les membres proches ou lointains de la famille royaliste, qui présenteront leurs livres, leurs œuvres, leurs chants, leurs films, leurs travaux d'hiver et même leurs travaux d'été, bien entendu. Merci Alain. Vous appréciez, non?
Très bien.
Pas de commentaires?
Non, non, non.
Voilà. Ensuite, Marc Dem.
C'est pas un radio-crochet.
C'est pas un radio, bien sûr. Ensuite, Marc Dem, comme d'habitude. Et puis, nous recevrons le docteur Déhou, qui vient de temps en temps sur cette antenne et qui a malgré tout trouvé le temps avec sa femme Suzanne. Ils sont tous les deux docteurs en médecine, de publier aux éditions Frison Roche un livre d'écologie dont on peut parler, parce que c'est pas de l'écologie, c'est de l'écologie bien chez nous.
Très, très beau livre dont nous allons parler dans présent.
Voilà.
Superbe bouquin.
Très complet, dans lequel on comprend bien que l'écologie, c'est pas simplement une affaire de verre, c'est...
Je crois même que c'est exactement le contraire de ce que font les verts, voilà, et génération écologique.
Alors, c'est un livre inspiré et plein de spiritualité, donc on en parlera avec ses auteurs. Et puis, nous recevrons, comme nous l'avions annoncé il y a quelques semaines, Daniel Raffard de Brienne, qui viendra nous présenter son livre tout récemment paru sur le Saint-Suaire, qui est un recensement à peu près complet, une recension, je veux dire, pardon, de à peu près complète de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le Saint-Suaire, et qui sera peut-être accompagné, je ne suis pas absolument certain, de Monsieur Van Covenberg, qui est le fondateur et président du CIELT, le Centre International d'Études sur le Linceul de Turin. Voilà, qui organise un grand symposium prochainement à Rome. Voilà le programme de la soirée. Alors, en ce qui concerne l'affaire Bérégovoy, je dois dire que je croyais avoir atteint depuis longtemps le niveau maximum d'écœurement en ce qui concerne cette démocratie. Mais là, ça dépasse tout. Là, ils ont fait encore mieux que je pensais. C'est-à-dire qu'on a vu le plus beau rassemblement de faux culs, de menteurs, de petits profiteurs qui se sont jetés sur le cadavre de ce pauvre homme d'une façon, mais vraiment répugnante, à la fois répugnante et révoltante. Si bien que même Ponce, qui n'est pourtant pas un foudre de guerre, hein, le docteur Ponce, on ne peut pas dire que ce soit... il y a un moment où quand même, il a trouvé que ça allait un peu trop loin, alors il a dit, quand on est accusé injustement et qu'on est en paix avec sa conscience, on trouve en soi-même la force de résister. Alors moi, je comprends le français, si je traduis bien, étant donné que M. Bérégovoy n'a pas trouvé la force de résister, puisqu'il s'est suicidé, ça veut dire que il n'était pas accusé injustement ou qu'il n'était pas en paix avec sa conscience. Bon. Personne ne dit ça. Jusqu'à présent, Ponce est le premier à le dire. Alors quand on en arrive à un stade de décomposition des idées politiques et des principes moraux, tel que le premier qui dit la vérité c'est Ponce, on se dit que la situation est quand même extrêmement grave. Alors, je veux dire que depuis le début de cette histoire, il y a deux images qui se sont imposées à mon esprit. La première image, c'est l'image archi-classique des films des années 30, des films américains des années 30, des séries noires des années 30 ou 40, où on voit, quand il y a un enterrement, ces longues théories de limousines noires au vert fumé, d'où sortent des messieurs
de même couleur,
avec des lunettes noires, le bada sur les yeux, enfin le borsalino sur les yeux, le manteau cintré, avec une légère bosse au côté gauche, et qui transportent d'énormes couronnes qui vont poser sur le cercueil du mort. Et alors il y a la famille Simonetti, la famille Marcioli, la famille
Leotardi,
la famille Seghini, qui déposent le tribut. Alors, toute la semaine, les hommes de main de ces familles s'étripent joyeusement pour prendre le contrôle des blanchisseries, des bars, des confiseries, des boulangeries, du trafic de drogue, des filles, tout ça. Mais quand il y en a un qui meurt, alors on va lui rendre hommage. Et on dit, aïe, Bérégovoy, mais c'était un grand celui-là, c'était pas un méchant, c'était un bon. Et puis le lendemain, on recommence à s'entretuer. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et puis il y a une deuxième image qui s'est imposée à mon esprit, c'est la fameuse phrase, je crois que c'était Clémenceau qui avait dit ça de Boulanger, il avait dit, il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Et Bérégovoy, il est mort comme il a vécu en aide-comptable. Oui. J'ajouterai pas d'adjectif pour pas... Mais ça fait penser à ça. Je dois dire que le mépris absolu dans lequel je tiens cette classe politique, je suis pas le seul d'ailleurs, est vraiment renforcé par ça. Parce que
c'est les messieurs de la famille.
Et tous ont sauté sur l'occasion. Alors, Léotard, c'est à hurler de rire. C'est à hurler de rire. C'est-à-dire qu'il s'est dit, oh là là, enfin, je vais pouvoir d'abord me tirer vengeance des gens du canard. Et ensuite me dédouaner une fois pour toutes, parce que maintenant ils vont plus oser me toucher. Chaque fois qu'ils vont sortir un dossier sur moi, je vais sortir un pétard de ma poche en disant quoi ? Vous voulez que je me suicide ?
Un pétard pas, parce que Léotard, tu sais le service militaire qu'il a fait. C'est un déserteur et un formateur de syndicat dans l'armée. Alors.
Il sait peut-être comment on tient un pistolet, par quel bourreau le tient. En tout cas, voilà, on a vu, alors il a fait un papier d'ailleurs,
Il a fait un papier dans la presse.
Que Bruno Frappe. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Il publie dans Le Monde un papier qui dénonce les journaux et que le directeur du Monde publie tout en disant que c'est un tissu d'ânerie. Alors là, on voit c'est la famille tuyau de poil, c'est la connivence extraordinaire de ce milieu. Un homme politique insulte officiellement la presse dans le journal qui incarne en réalité la légitimité médiatique en France, et le directeur de ce journal dit, tout en publiant l'article, que celui qui l'a fait est un crétin. On en arrive maintenant à un niveau de complicité et de connivence entre le milieu médiatique et le milieu politique, et le milieu tout court, qui donne littéralement la nausée. Mais il est évident que tous ces gens-là ont sauté sur l'occasion et on les a vus. Alors tous les gars qui ont au basque des casseroles ont dit « Oh là là, mais c'est scandaleux, la presse pourrie, la presse qui tue, les juges qui tuent, etc. » Bon, ils espèrent effectivement que désormais on n'osera plus sortir des affaires. Et puis, il y a un autre aspect qui est quand même extraordinaire, c'est l'attente, plutôt le report de la publication du rapport Reynaud. Alors à ce propos, c'est-à-dire qu'il faut lire dans présent
de cet après-midi à Paris et demain matin
qui sera demain
pour les abonnés
et oui. Chez les abonnés, il faut lire le papier de Madiran qui une fois de plus est un papier superbe. Alors je vais me permettre d'en piquer un extrait. Voilà ce que dit Jean Madiran. Il n'est pas sûr que le Premier ministre Balladur se soit senti frappé entre les deux yeux par la botte secrète du président. Jean Madiran fait allusion
à la
phrase du président et à la fameuse botte de Nevers. Ni même qu'il soit réellement gêné. Sa politique, comme le décèle l'analyse terrible de Jean-Yves Le Guenou, s'engage dans la voie d'une continuité profonde. Le rapport sur les déficits cachés de la gestion Bérégovoy a été confié à Jean Reynaud. Et ce choix n'est pas innocent. D'un homme qui, sans vergogne, se confie à un organe aussi extrémiste qu'Urkloum, pour promettre, alors c'est Jean Reynaud qui parle, qu'il n'a joué aucun rôle dans le suicide de Bérégovoy, qu'il ne s'agit pas de se livrer à un exercice de comparaison avec ce qui avait été annoncé par le gouvernement précédent, et qu'il n'a jamais été question de dresser un réquisitoire contre Pierre Bérégovoy. Autant dire qu'il ne sera donc question de rien. La publication de ce rapport étant différée, il avoue, je vais en profiter pour améliorer mon travail. Et Jean Madiran conclut, Balladur avait comme Clémenceau choisi le plus bête.
Alors, il faut ajouter, Serge, que ce Reynaud en question, c'est l'homme des CES Pailleron.
Alors c'est ça, Reynaud était quelque chose au ministère. Il était responsable du matériel.
Du matériel sportif, et voilà. Etc. C'est lui, l'homme des CES Pailleron.
C'est lui qui a inventé les CES.
C'est pas forcément un homme de paille, mais...
Alors, il y a autre chose, c'est que, effectivement, son rapport, apparemment, si on en croit les rumeurs, et pourquoi ne pas les croire en l'occurrence, puisqu'il y a des dizaines de personnes qui ont lu le rapport, fait apparaître que tous les chiffres annoncés par les gestionnaires socialistes étaient des chiffres faux.
Bidonnés ou faux.
La situation est une situation véritablement catastrophique, mais ça, tout le monde s'en aperçoit, c'est pas la peine de le dire. Donc, c'était ce que Reynaud allait publier. Alors maintenant, on essaye de nous faire croire que c'est à cause de ça, c'est parce qu'il aurait été prévenu de la publication de ce rapport et du contenu de ce rapport que Bérégovoy s'est suicidé.
On dit même que Balladur, par courtoisie, à peu près normal, lui aurait fait tenir.
Ça, c'est possible que ça fasse partie de la chose. Mais il y a une chose qu'il faut dire clairement. Et je crois que le Canard enchaîné d'aujourd'hui le dit, ou le laisse entendre. C'est que Bérégovoy, tout le monde le sait, alors on va le dire, ce sera beaucoup plus simple comme ça, avait la quasi-certitude qu'il allait être mis en accusation, mis en examen, pour l'affaire du
Trident. C'est-à-dire inculpé, pour parler à l'ancienne, oui.
Pour l'affaire du Trident. L'affaire du Trident, vous savez ce que c'est une affaire d'initié dans laquelle des voyous politiques ont trahi le secret du rachat par Péchinet d'une énorme affaire américaine qui allait naturellement faire monter les actions de Péchinet à la bourse, tant et si bien que des amis fricards de ces voyous politiques ont acheté des actions la veille ou l'avant-veille du jour où elles ont monté, en sachant qu'elles allaient monter, et se sont mis des milliards dans les poches, dont ils ont ristourné une partie à leurs amis voyous politiques. Voilà l'histoire. Alors, les fricards, parmi les fricards, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Pelat, et il se trouve que ce monsieur Pelat a prêté, quelques mois plus tard, de l'argent, il a prêté 1 million de francs à monsieur Bérégovoy. Et quand, 1 million de francs sans intérêt. Et quand on a demandé, quand le Canard enchaîné a révélé cette histoire, monsieur Bérégovoy a répondu que cet argent lui avait été prêté par un ami. C'est agréable d'avoir des amis qui vous prêtent 1 million sans intérêt. Moi, je suis preneur tout de suite, hein. J'ai quelques amis. Alain?
Moi aussi. Voilà. La moitié, hein, même.
Bon, mais, oui, même la moitié. Bon. Mais la vérité de cette histoire, le fin fond de la vérité, c'est que Pelat n'a jamais été un ami de Bérégovoy. Ça n'est pas vrai. Pelat est un ami personnel de Mitterrand. Et donc si Pelat a prêté cet argent à Bérégovoy, c'est parce que c'est Mitterrand qui lui a demandé. Alors pourquoi ces gens-là ont-ils fait ça? Et moi je crois que Bérégovoy se disait, si je comparais en justice, si je suis mis en examen, il va falloir que je dise la vérité. Or la vérité, ça va être où de prendre le chapeau de toute cette histoire,
ou tout dire,
puisque les informateurs de Pelat dans l'affaire du Triangle, c'était des hommes de Bérégovoy,
ou dire la vraie vérité du bon Dieu. Et la vraie vérité du bon Dieu, il ne pouvait pas la dire, parce que c'est justement la vraie vérité du bon Dieu.
Il est allé la lui dire, là.
Alors, il lui a peut-être dit... En tout cas, il a téléphoné, semble-t-il, à l'Élysée, peu de temps avant de se donner la mort, pour essayer d'avoir un rendez-vous qu'il n'arrivait pas à obtenir. Donc, tout ce qu'on dit dans cette histoire, quand on accuse la presse, les juges, c'est un scandaleux mensonge. La presse n'a rien à voir là-dedans. Les juges n'ont rien à voir là-dedans. Le rapport Reynaud n'a rien à voir là-dedans. La vérité... c'est que Bérégovoy s'est senti abandonné par des gens qu'il avait abusé, qu'il avait utilisé,
manipulé peut-être,
qu'il avait manipulé, trompé, et qui le laissait tomber. Et il s'est dit, je suis complètement coincé, car ou je vais moi porter le chapeau, ou je vais porter l'incendie à un niveau tel que ça peut faire exploser le système. Et comme c'était un homme, effectivement, qui était certainement fatigué, abattu, en période... dépressive, comme l'a dit Mauroy, même Mauroy, cette espèce de... oui, voilà, je dirais pas le mot, de Mauroy s'est aperçu que quand on avait été Premier ministre et qu'on l'était plus, d'un seul coup, il y avait plus, comme du mou dans la corde à nœuds. Bon, ben, dans cette période-là, ça a abouti à un suicide. Mais tout ça, c'est, je dirais, péripéties et choses de peu d'intérêt. Ce qui reste... extraordinairement démonstratif et définitivement significatif pour nous, pour le bon peuple, c'est la connivence, la complicité de toute cette classe politico-médiatique, de toutes les télévisions, de toutes les radios, y compris de l'Église, car c'est quand même un gag extraordinaire, on me permettrait de le dire, avec tout le respect dû à l'Église. Et aux circonstances, parce qu'il y a quand même un suicide, bon, on dira ce qu'on veut du suicide, on peut en parler très longuement, mais là, il y a quand même une espèce de grandeur du geste, de l'homme qui met fin à ses jours. Une grandeur humaine, grandeur antichrétienne, grandeur, comment dirais-je, à l'ancienne.
Héroïque à l'ancienne.
Voilà. Mais ça, c'est digne de respect. Mais qu'après, il y ait cette mascarade honteuse, d'un type qui croyait ni à Dieu ni à diable, qui était un vieux franc-mac militant socialiste, qui se foutait de l'Église comme de sa première chemise, qu'on amène dans l'Église, et auquel, devant qui on traîne un mitré pour dire son éloge funèbre.
Des obsèques nationales, quasi.
Et on lui fait carrément des obsèques nationales. On avait l'impression, pour le coup, que 1905 était oublié, et que la séparation de l'Église et de l'État était un souvenir. Tout ça, avec, au premier rang, la veuve, encadré, non pas comme on pourrait s'y attendre de ses enfants, de ses fils et de ses filles, mais à droite
Madame Mitterrand.
Du sphinx et à gauche de Madame Mitterrand, qui est une ennemie de l'Église, qui est, elle l'a écrit en toutes lettres dans les bouquins, qui est tout ce qui porte soutane, d'ailleurs il n'y en avait pas, donc elle est tranquille, enfin qui a une détestation formidable pour l'Église, et qui refuse en général d'entrer dans les églises. Là elle y était. Je trouve cette mascarade déshonorante pour ceux qui y ont participé. Et vraiment.
Peut-être même pour Bérégovoy lui-même.
Ouais, mais enfin, là, il ne pouvait pas se défendre, le malheur. On a fait une fois de plus, là, il a été traîné. Mais, je dois dire que la palme, quand même, revient à M. Lyotard. Ça, celui-là, il ne faudra jamais l'oublier. Et je voudrais dire à M. Tapie, si l'occasion m'est donnée de lui adresser la parole, que véritablement, il a été fin prophète. Quand il a annoncé un destin national à Léotard. Alors je pense qu'on devrait faire... Il faut changer les lois en France, il faut changer les lois fondamentales, comme dirait Mitterrand. Il faut faire un ticket maintenant. Et vous imaginez, à la présidence de la République, un président qui serait Léotard et un vice-président qui serait Tapie. Mais mon vieux, la représentation de la représentativité de la France est assurée dans le monde entier. Pour 15 ans, il suffirait de ressortir des placards les vieilles affiches du couple célèbre Foutit et Chocolat, les deux clowns du cirque Zavata ou du cirque Pinder. Voilà, et entre nous, entendre Mitterrand dire ce qu'il a dit sur l'affaire Bérégovoy et dire qu'on avait jeté au chien l'honneur d'un homme, quand on se souvient que c'est le même Mitterrand qui, il y a 2 ans, trottinait derrière l'effigie de Le Pen empalée, brandie par les manifestants de l'anti-Carpentras, c'est vraiment dans la série des grands moments comiques de l'histoire, c'est à peu près inégalable.
Il y avait à peu près les mêmes, hein, parce qu'il y avait Mitterrand, mais il y avait les mêmes racailloux du RPR, les Raoult, les Chirac, les Seguin et compagnie qui étaient là.
La même bande. Donc, c'est bien triste que M. Bérégois soit suicidé, mais je précise une chose, c'est que... deux choses il faut ajouter pour terminer. La première, c'est qu'ils sont très enquiquinés dans cette histoire, parce que par quelques bouts qu'ils prennent l'affaire, ils n'ont pas pu incriminer l'extrême droite. Oui. Alors ça, c'est quand même très embêtant. Pour une fois qu'il y a un événement réel qui se passe dans ce pays et qu'on n'arrive pas à mouiller le Front National.
Ils ont essayé de parler un peu de Salengro, mais bon.
Oui, mais comme Salengro avait été dénoncé par les communistes.
Par l'extrême gauche, par l'humanité de l'époque. Et en plus, on est dans une telle. C'est une petite chance qu'on a. Il y a une telle inculture à l'heure actuelle chez les gens qui font les informations que Salengro leur demandait une recherche trop importante pour pouvoir exploiter la chose comme ils auraient aimé. Ouais.
Alors, ça, c'est le premier gag, c'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment. Dans la série des gens qui auraient eu des raisons de se suicider, si on dit que Bérégovoy a été accablé au point qu'il a mis fin à ses jours, accablé par la calomnie, l'injure, le mépris et l'injustice, alors il faut quand même se rappeler ce qui a été dit et écrit sur Le Pen, ouais, bien évidemment, bien, mais on peut dire aussi sur Giscard au moment de l'affaire des diamants,
bien sûr.
À peu près sur tous les hommes politiques qui se sont succédés à la tête de la France ou dans les premières places du pays depuis quelques années, y compris d'ailleurs le principal intéressé de l'affaire qui est M. Mitterrand, qui à souffrance égale aurait pu mettre fin à ses jours en allant s'empaler sur les grilles de l'observatoire au lieu de les sauter. Voilà, mais il y a bien d'autres choses à dire en somme, et notamment en ce qui concerne les véritables secrets, les véritables clés de cette affaire.
Il y a plusieurs auditeurs qui... Enfin, l'un des auditeurs nous dit « Si les chiens étaient lâchés pour Béret, il y a eu des meutes pour Le Pen.
Oui, »
Mais
oui,
lui,
oui.
Il a eu le cran de résister à
c'est
tout
vrai.
Cela. Il y a beaucoup d'auditeurs aussi qui se demandent si c'est pas vraiment un suicide et si on n'aurait pas liquidé M. Bérégovoy. Oh.
Très franchement,
c'est vrai que l'histoire de l'arme qu'on pose, qui est enfermée, qui est dans la boîte à gants, le
profil... Tout ça, c'est rencontré.
C'est vrai qu'il y a un côté délirant dans le récit de l'affaire tel qu'il est fait, mais on pourrait dire que probablement... D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on dise plus la vérité là-dessus que sur le reste. Donc probablement, la vérité, enfin les faits sont controuvés. Et s'ils ne sont pas controuvés, l'aspect complètement invraisemblable de cette histoire finirait par ajouter à la vraisemblance des événements. Parce que quand on nous dit que le garde du corps a laissé son arme dans la boîte à gants pour aller faire un tour, apparemment, en bonne logique, n'importe quel policier du grade le plus bas éclate de rire quand on lui dit ça, parce que un flic, son arme, c'est à peu près comme sa main. Ils ont une telle peur
qu'on leur pique,
de la perdre, de l'abîmer, parce que c'est des jours et des jours de paperasserie à faire, etc., sans compter
plus
les sanctions
terribles,
pénales, les sanctions professionnelles, les sanctions financières, que vraiment d'imaginer qu'un flic soit capable de s'éloigner de plus de 2 mètres de son 357 Magnum, c'est ne rien connaître à la psychologie des policiers. Cela dit, ça arrive, la preuve, je suis à peu près certain que c'est comme ça que ça s'est passé réellement.
Il y a beaucoup aussi d'indignation à propos justement des obsèques pour un suicidé catholique.
Oui, mais enfin, on n'est plus là.
Non, mais très franchement, il faut dire une chose, une fois de plus, moi personnellement, pourtant je suis catholique de tradition, je suis partisan d'obsèques religieuses pour les suicidés. D'abord parce qu'après tout, ça peut pas leur faire de mal. Et deuxièmement, parce que ça fait quand même beaucoup de bien à la famille et qu'il n'y a aucune raison de punir la famille pour un crime contre soi-même qui a été commis par un des membres de cette famille. Et une femme qui perd son mari ou une mère qui perd son
d'autant
fils
que ça n'était pas une messe,
à la suite d'un suicide ne mérite pas d'être punie si elle croit, s'ils ne sont pas croyants. Je veux dire, c'est ça qui est choquant dans l'affaire de cette messe, c'est que on a envie de dire dans la salle, c'est ça en fait, dans la salle, il n'y a pas 9 spectateurs sur 10 qui croyaient au film. Donc ça a quelque chose de parfaitement détestable. Mais pour Mme Bérégovoy, pour la famille, si ça a pu être un réconfort, après tout, c'est le bon Dieu qui s'arrange. À mon avis, c'est mieux que nous ce qu'il a à faire.
Et un auditeur demande si vous savez s'il y a eu enquête judiciaire et autopsie, comme il y a toujours en cas de suicide.
Enquête judiciaire, oui, c'est parce que c'est obligatoire. Autopsie, je ne pense pas, mais enfin, il a quand même été suffisamment sous les scalpels des chirurgiens, le malheureux.
Et une auditrice... Enfin, remarque que le chômeur qui s'est donné la mort par le feu n'a pas soulevé beaucoup d'émotions.
C'est encore un des aspects de la question. Effectivement, on a beaucoup moins parlé de plusieurs autres suicides. Les habituels suicides de chômeurs, il y en a à peu près un par jour. De petits commerçants accablés par le fisc. Et puis...
Par le crédit agricole, les paysans et compagnie. Ouais.
Le suicide de M. Roux, et vice-président...
Récemment, qui s'est jeté dans la Loire,
le lendemain. Qui s'est jeté dans la Loire le lendemain, et dont on a dit, bah oui, monsieur, parce qu'il était fou. Voilà. Évidemment, ça, comme ça, ça règle tous les problèmes. Et on a fait beaucoup moins de bruit.
On te demande aussi si le Front National était représenté aux obsèques de M. Bérégovoy.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je sais que Jean-Marie Le Pen avait été approché par des gens de la section FN de la Nièvre qui avaient souhaité s'y rendre et qui l'avaient dit si vous voulez y aller, allez-y.
Oui, c'est probablement voilà.
Il y a même eu un communiqué du Front National pour expliquer ça.
Du Conseil, oui.
Voilà, du Conseil régional local, je pense.
Et alors, La Rochelle va donner un nom de rue, Bérégovoy. Qu'en pensez-vous?
Ben, je pense que c'est illégal. Il y a une loi en France qui interdit de donner le nom d'un défunt à moins de 50 ans avant sa mort, pour tout simplement éviter
les polémiques
qui forcément s'installent autour de ce genre de sujet. Donc c'est tout simplement illégal et il suffit de faire un recours en Conseil d'État.
Mais comme c'est une loi qui a été rompue plusieurs fois dans les municipalités communistes qui ont donné le nom, par exemple, d'Allende ou de Pablo Neruda, quasiment instantanément 6 mois après la mort, voilà, c'est la loi du plus fort.
Une dernière question, un rappel des autres morts, Pelat, La Fournière, Béret, s'agit-il de décès
naturels,
disons. Ben,
c'est une mauvaise maladie.
Voilà.
Boulbil est toujours vivant.
Oui. Traboulsi aussi.
Traboulsi aussi. Mais c'était des proches aussi de Bérégovoy qui étaient mal entourés.
Oui, c'est
ça. Voilà. On pourrait en dire, oui, je le disais tout à l'heure, on pourrait en dire encore beaucoup plus, mais c'est très difficile d'en dire beaucoup plus sans prendre le risque de dire des choses vraiment très désagréables. Alain, qu'est-ce que c'est que cette journée de la mémoire? Je fais semblant,
De ne savoir.
De pas savoir, mais
alors, cette journée de la mémoire, c'est le samedi 8 mai. À la mutualité, à 20h, avec différents orateurs que nous allons dire. De quoi s'agit-il? Comme le nom l'indique, d'une journée de la mémoire qui, à partir de cette année, aura lieu tous les ans, aura lieu normalement le 7 mai, là elle a lieu le 8 mai parce que les salles parisiennes n'étaient pas libres, mais c'est en fait cette journée de la mémoire, on aimerait que ce soit une semaine de la mémoire. C'est-à-dire qu'autour du 7 mai, tous les ans, on se souvienne de nos morts tombé contre le communisme et qui continue de mourir du communisme. Alors pourquoi le 7 mai? C'est le 7 mai 54, c'est la chute de Dien Bien Phu, et Bernard Anthony qui en est l'initiateur, et Roger Hollande qui en est le co-organisateur avec le Cercle National des Combattants, ont voulu donner à cette cérémonie un caractère à la fois solennel et rappeler que nous sommes nous aussi les fils de la mémoire, que nous avons nos morts, qu'il est sans doute normal de célébrer les morts du nazisme, mais si nous devons célébrer la mémoire de mort, nous devrions le faire dans une proportion de 1 à 10 millions en ce qui concerne les morts du communisme, le communisme qui tuait avant le nazisme, qui a continué à tuer pendant le nazisme et qui continue de tuer après le nazisme. Alors beaucoup de gens nous disent mais le communisme est mort. Nous ne le croyons pas du tout, nous sommes même sûrs du contraire. En France, par exemple, la récente grève du Libre CGT ou les affaires de Docker ou les différentes manifestations ici et là que l'on voit montrent qu'il y a encore une force communiste importante qui peut manœuvrer habilement. Il reste encore des forces communistes en Afghanistan, il reste toute l'Indochine qui est sous la botte communiste, il reste Cuba, il reste bien sûr l'armée rouge russe qui n'a pas mis les armes à bas comme on croit, il y a les opérations serbo-communistes dans l'ex-Yougoslavie, et c'est pour faire souvenir de tout cela, mais aussi de nos morts, que nous nous réunissons pour un meeting. Alors il y aura des stands nombreux, il y aura le stand présent, le stand du Libre Journal de la France Courtoise, le stand de National Hebdo, je crois le Choc du Mois, la SERP et National Vidéo, le Cercle National des Combattants, Chrétiens de Solidarité, bien sûr, qui est puissance organisatrice avec Bernard Anthony. Et il y aura différents orateurs. Alors, ces différents orateurs, si tu me repasses le journal en question, j'en aurai la liste.
Le journal en question, c'est présent. Voilà, tu peux donner le titre de ton journal.
Voilà. Il y aura donc des prises de parole, exactement,
plus que des discours
longs, hein, ce sera des petites prises de parole que nous espérons musclées de 7-8 minutes maximum. Prendront donc la parole Serge de Becquet, ici présent, Francis Bergeron, qui nous parlera du goulag avant le goulag.
Hein, on se connaît bien, Francis, il avait 18 ans, voilà, il est parti distribuer des tracts à Moscou, c'était quand même assez gonflé.
Il y a les Reporters sans frontières en ce moment qui nous gonflent les oreillettes avec leurs expositions et leurs photos minables, et généralement c'est le pâté d'alouette. Hein. On montre une photo de temps en temps dans un pays coco, et le reste c'est des pays supposés dictatoriaux ailleurs. Donc lui est allé distribuer des tracts, voilà un journaliste sans frontières et courageux, il nous parlera donc du goulag avant le goulag aussi, parce que Solzhenitsyn, en arrivant, tu te souviens peut-être, aux États-Unis, il est rentré dans une bibliothèque banale d'un État lambda aux États-Unis. Il a dit, mais il a vu les livres, mais vous saviez tout. Hein, bon, et c'est donc un peu de ça dont nous parlerons. Il y aura notre ami Jean-Pierre Cohen qui viendra parler du fait que bien des juifs ont été à l'origine de l'expansion du marxisme-léninisme et des idées de la révolution, et que bien des juifs en ont été les victimes en URSS. Il l'expliquera. Jean Madiran, bien sûr, qui a écrit de nombreux livres, dont notamment un livre sur le communisme, Vieillesse du monde. Philippe Nomiak, qui est un témoin qui nous vient, je crois, de Pologne, qui parlera donc du calvaire des pays de l'Est. J'interviendrai un petit peu aussi sur l'indochinolien. Et puis nous aurons une surprise. Alors il y a le docteur Tran Duy Tan, qui est un Vietnamien, et je n'en dis pas plus parce qu'il y aura l'effet de surprise, mais il y aura une petite surprise, quelque chose dont on devrait parler au moins entre nous, puisque l'autre presse, je pense, l'étouffera, mais un document important, un document qui dans la lignée, dans la foulée de l'affaire Boudarel, éclairera encore bien des gens sur l'état de l'université française. Et puis, en conclusion, l'incontournable, l'irréprochable, l'exemplaire Roger Olyndre, qui est un jeune combattant de toutes ces guerres contre le communisme, qui n'a jamais mis le sac à terre et qui est prêt à repartir comme en 40.
Et qui est en pleine forme, je l'ai vu tout à l'heure.
Forme, voilà.
Il est superbe. Merci Alain. Alors samedi
8 mai, vous pouvez venir un peu avant 20h d'ailleurs, parce qu'il y aura des stands, je crois que on ouvrira vers 19h45, et ça durera, je pense, jusqu'à 11h30 à peu près. Voilà, avec beaucoup de choses et une surprise, je vous le redis.
Merci, à samedi.
Merci à toi, Serge.
Petite musique, mais qui nous a servi d'intermède musical entre l'aspect politique de cette première partie d'émission et puis un aspect qui est complètement apolitique, quoique. Il s'agit, je l'ai dit, du livre de Michel Grandin qui s'appelle Rivière de France, Histoires et portraits. Alors je dis quoique parce que nous qui sommes des amoureux de notre pays, des patriotes, on dirait, si le mot n'était pas aussi déconsidéré, des nationalistes. Nous découvrons ce livre avec bonheur parce que chaque rivière de France y est considérée, y est évoquée, Et chaque rivière de France est une personne.
Tout à fait.
Ça, c'est très frappant de voir à quel point, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans le souvenir des gens, la rivière est un être vivant.
La rivière est un être vivant, et c'est un être vivant avant l'homme lui-même. Les rivières coulaient depuis fort longtemps, alors que l'homme n'est apparu qu'au début de l'ère quaternaire, c'est-à-dire à l'échelle géologique, quelque chose de tout à fait minuscule. Et en se promenant, que l'on fasse du tourisme ou qu'on le fasse pour d'autres motifs, au bord des rivières, on s'aperçoit qu'elles ne se ressemblent pas, même quand les géographes disent « ce sont toutes des rivières méditerranéennes, ce sont toutes des rivières atlantiques ». Atlantique. En réalité, les rivières ne se ressemblent pas l'une et l'autre. L'Hérault n'est pas l'Orbe, la Gartempe n'est pas la Creuse. Ce sont des rivières tout à fait différentes. Pourquoi ? Parce que quand on cherche un peu, on s'aperçoit, comme vous l'avez dit très justement, que les rivières ont des personnalités. Vous avez des rivières qui se cachent, vous avez des rivières historiques, vous avez des rivières qui se constellent de châteaux. Vous en avez qui sont amicales avec l'homme et qui ont des échanges avec l'homme. Et puis vous en avez d'autres qui sont des rivières tout à fait inamical et qui porte la destruction. L'homme en est d'ailleurs parfois coupable lui-même, parce que c'est un couple, l'homme et la rivière, c'est un couple extrêmement agité. Et il y a des hommes qui... Alors la pollution, n'est-ce pas, qui est une chose récente dans nos rivières aussi, et les rivières s'en sortent plus ou moins bien. On a voulu les mater par des barrages, on a voulu les encadrer par des digues, et ceci de tout temps. L'homme s'est toujours plaint des mal que lui faisait les rivières, il n'en a pas toujours apprécié les bienfaits. Et par conséquent, on ne savait pas que la rivière était si rose. Quand on a voulu, par exemple, endiguer la Loire, ce qui est fait sur la plus grande partie, on ne s'est pas aperçu que la Loire n'apportait plus son limon. Les Égyptiens, jusqu'au jour où Nasser, n'est-ce pas, a fait ce barrage stupide qui retient le lac Nasser derrière, ce qui fait que maintenant ils ont les mêmes inconvénients que nous et en plus grand, eh bien on sait que de temps en temps, il faut être inondé pour avoir du limon et pour avoir une nouvelle terre. Alors ça, on le savait. Mais au niveau de l'inondation, ça chasse les gens. Et par conséquent, on a voulu endiguer la Loire. Alors elle est endiguée, mais quand par hasard elle brise ses digues, la catastrophe qui est amenée est beaucoup plus grande. Le dernier exemple étant l'Ouvèze, qui est une petite rivière méditerranéenne qui n'avait jamais fait de mal à personne. Enfin si, elle débordait de temps en temps, n'exagérons rien. Mais à partir du moment où on a mis des murs pour l'empêcher de déborder à tel ou tel endroit, eh bien lorsqu'elle s'échappe, ça devient beaucoup plus terrible.
Là, ça fait tout à fait penser au rapport que les gens ont souvent avec leurs animaux domestiques. Bon, souvent, est-ce qu'un chien est gentil, on finit par croire que c'est une espèce de grosse peluche animée. Et bien, de temps en temps, on fait à un chien des choses qui le rendent à sa sauvagerie naturelle et il devient méchant, il mord, etc. Une rivière, c'est un peu la même chose. On peut faire beaucoup de choses à une rivière, mais on ne peut pas se coucher dans son lit. Parce que si on se couche dans son lit, il ne faut pas s'étonner qu'on soit noyé ou roulé dans la boue. C'est exactement ce qui s'est passé à Vaison-la-Romaine, où les gens avaient construit leur maison, enfin les inconscients ou des malheureux avaient construit leur maison dans un endroit dont on savait de toute éternité, dont les hommes habitant le pays savaient de toute éternité qu'il était inondable.
Bien sûr,
là, ça nous engage dans un autre débat, c'est celui de l'enracinement. Quand on dit qu'un homme est fait pour vivre dans sa terre, c'est aussi parce que, à force de la fréquenter, il a appris à la connaître et à la domestiquer, et que quand l'étranger arrive, l'étranger ignore tout des mœurs de cette terre, des mœurs de cette rivière, des mœurs de cette forêt, et il s'installe à l'endroit où il ne faut pas, il se retrouve embarqué par une avalanche, ou par un glissement de terrain, ou par une inondation, et c'est tout simplement parce qu'il ne connaît pas la terre, parce qu'il ne lui appartient pas, il n'y a pas d'échange amoureux entre la terre et l'homme.
C'est tout à fait exact, et il y a par contre des endroits où ça se passe très bien. Alors, lorsque les villages ont été construits entre le 9e et le 11e siècle, qui est grosso modo les trois siècles pendant lesquels sont nés à peu près tous nos villages, ce qu'on ne sait pas toujours, eh bien, il y a des villages qui sont bâtis au bord des rivières, parce que là, on savait que c'était des rivières amicales. Alors, vous avez des rivières dont on a laissé les débordements dans un fond de prairie, c'est le cas, par exemple, de la Saône, on a construit deux lignes de villages de chaque côté, mais à distance respectable. Et puis, il y a des rivières dont on savait qu'elles étaient méchantes, inamicales, où il n'y avait pas de terre autour, et qui ont été complètement ignorées. Ainsi, vous regardez, par exemple, une grande rivière, je prends une rivière importante comme la Creuse, par exemple, elle ne traverse que des petites localités. La plus grande étant au Buisson, mais vous vous apercevez que cette Creuse, que l'on a toujours beaucoup craint, on y venait pêcher, mais il n'y a que de petites villes ou des villages au bord de la Creuse. Alors que vous avez des rivières qui semblent avoir de tout temps attiré l'homme. Alors, prenez la différence entre la Haute-Seine et l'Aube, eh bien vous apercevez que la Seine, qui est le fleuve des capitales, n'est-ce pas, les trois grandes capitales de la France, qui sont Troyes, Paris et Rouen, qui ont été dans des... Eh bien, c'est un fleuve qui est très amical et qui a attiré toutes les grandes villes. Parce, eh bien, l'Aube, qui, au confluent de la Seine, a absolument le même débit que la Seine, et qui est par conséquent un fleuve qui coule dans les mêmes endroits que la Seine, pour différentes raisons qui tiennent à l'amour entre l'homme et la rivière, n'arrose que de petites villes tout à fait minuscules, n'est-ce pas, parce que Bar-sur-Aube c'est pas très grand. Quant à Arcis-sur-Aube, à part l'intérêt que ça présente au point de vue militaire, et puis que c'est le député d'Arcis, n'est-ce pas, de Balzac, et puis c'est là aussi où est né Danton, enfin il y a beaucoup de choses historiques le long de l'Aube, mais il n'y a pas de ville.
Combien y a-t-il de rivières en France ? Est-ce que vous savez, est-ce qu'on a un chiffre précis ?
Alors, on pourrait les compter, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. On pourrait les compter parce que il suffit de regarder une carte à assez grande échelle. Alors, en disant que tout ce qui coule et qui est un kilomètre de long, vous avez un chevelu dans les régions imperméables, c'est-à-dire dans le Massif central, principalement le Massif armoricain, vous avez un chevelu de rivières très denses. Donc, on ne peut pas les compter, il y en a énormément. Mais toutes les rivières de quelque importance, j'ai essayé de mettre dans mon livre toutes celles qui avaient plus de 70 kilomètres, ça en fait déjà, vous voyez, 320, mais effectivement, il y a beaucoup de rivières, mais quand elles sont toutes petites, on les appelle des rues, c'est des ruisseaux, et la rivière proprement dite qui n'assèche jamais, la rivière pérenne, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est un nombre limité, on pourrait les compter.
Est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer l'histoire par les cours d'eau, par les rivières ? Parce que je pose cette question parce qu'en ce moment, on voit dans beaucoup de journaux des grands papiers sur la stratégie de l'eau, la bataille de l'eau. Alors on nous explique ce qui se passe au Moyen-Orient en fonction des besoins et des disponibilités en eau. On nous explique ce qui se passe un peu partout dans le monde de cette façon-là. Alors est-ce qu'en France, on peut faire jouer à ce jeu-là, c'est-à-dire traiter de l'histoire à travers les rivières?
On peut traiter l'histoire de l'établissement de l'homme en France certainement à travers les rivières, pas seulement en France mais même partout. Car il faut savoir que la première chose dont l'homme a besoin pour s'établir, dont l'homme préhistorique a eu besoin pour s'établir, c'était la rivière. Avant même que l'homme ne construise des puits qui ne s'aperçoivent qu'il pouvait trouver de l'eau en profondeur, l'homme, où a-t-il cherché l'eau? Uniquement dans les rivières. Les déserts, même si aujourd'hui on trouve dans les déserts, n'est-ce pas, des villes artificielles dont on fait venir l'eau de très loin, et puis parce qu'on a des moyens d'aller creuser les puits très profondément, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'homme. C'est ainsi que les premiers villages s'établissent encore au Moyen-Âge au bord des rivières. On commence bien sûr à savoir creuser des puits, mais on creuse des puits sur des buttes qui sont à côté de rivières. Donc l'homme ne peut s'établir au début que dans des endroits où il y a de l'eau, où il y a des rivières pérennes, c'est-à-dire qui coulent d'une façon permanente. Ça c'est certain. Bon. Alors ensuite, les grands événements politiques, il y a de l'indifférent, mais il y a tout de même la rivière frontière, la rivière obstacle, et qui est en même temps la rivière chemin, comme je l'explique dans mon livre. La rivière joue à la fois un rôle d'obstacle et un rôle de chemin. Et l'histoire de l'homme, l'histoire des grandes luttes militaires, vient de la nécessité où il y a de traverser les obstacles qui compartimentent notre monde. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la Seine et la Seine n'ont pas Lyon ou la Marne, parce que la Seine, c'est le seuil par lequel, en venant du Rhône, c'est la grande ligne qui est marquée par les rivières. Avant Louis XV, la route était très mauvaise et on avait beaucoup plus vite fait de faire le maximum de trajets en utilisant la rivière. Par conséquent, l'histoire des communications, l'histoire du commerce était l'histoire des rivières, jusqu'à Louis XV inclusivement et même encore pendant longtemps après. Puisque lorsqu'on s'est mis à construire des canaux, c'était à l'époque, on faisait encore le maximum de transport par les canaux qui étaient des rivières artificielles. Donc la rivière joue un rôle essentiel dans le commerce et par conséquent finalement dans l'histoire, oui.
Michel, dans votre livre, vous nous dites que Rivière de France, vous recensez 320 rivières. Laquelle est votre préférée ?
Ah, ça c'est très difficile à dire parce que moi j'aime toutes les rivières. Alors quand je tombe sur une rivière littéraire comme le Loir, je préfère le Loir. Mais quand je tombe sur une rivière magnifique, au point de vue de la beauté, de l'esthétique, la plus belle rivière de France est probablement l'Ardèche. C'est aussi la plus furieuse. Mais l'Ardèche traverse des choses tellement variées, elle est tellement enracinée dans des terroirs successifs et compartimentés. Et il y a de si beaux ponts qu'elle est sans doute magnifique. Ainsi que le Var aussi dans le même ordre d'idées de rivières sauvages et méditerranéennes. Alors si on s'intéresse à une rivière calme, tranquille, qui est belle, qui a beaucoup d'herbes, qui coule, une rivière picturale, alors l'une des plus belles, les deux plus belles sont peut-être la Somme et la Gartempe, n'est-ce pas? Enfin ça, mais chacun y voit. Encore que j'ai la prétention philosophique de penser que le beau n'est pas entièrement subjectif, bien sûr chacun peut préférer tel ou tel type de rivière.
ça te plaît ça, Daniel?
C'est vraiment très intéressant. Moi j'ai toujours préféré le Liron au Tibre, mais enfin chacun sait.
Oui, Joachim du Bellay aussi, mais enfin c'est...
Les auditeurs réagissent en disant le Verdon, voilà, avec ses magnifiques gorges, on va lancer un concours. Quelle est la rivière préférée des auditeurs de Radio Courtoisie? Et pour finir, vous avez illustré votre livre avec la couverture de votre livre avec une très 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 belle photo qui me semble résumer toute la beauté de la France. C'est une espèce de avec au fond une barrière de collines un peu abruptes et puis une forêt et une rivière sinueuse mais rapide. Qu'est-ce que c'est cette...
Alors, j'ai le plaisir de vous dire que cette photo, c'est le choix de mon éditeur. Et je trouve qu'il l'a vraiment très bien choisie. La photo qui était sur mon livre précédent, qui était consacré au village de France, était une photo de moi. Parce que j'avais de plus belles photos sur les villages que sur les rivières. C'est très difficile de photographier une rivière. Et celle-ci est très jolie parce que c'est une rivière où on voit tout, n'est-ce pas? On voit les champs, on voit les prés, on voit la colline, on voit l'eau, on voit la rivière qui tourne. Et cette rivière, c'est la Dordogne. La Dordogne qui est, en parlant des rivières, je parle bien sûr aussi des fleuves. Alors la Dordogne, certains la prennent pour un fleuve, certains la prennent pour une rivière. Je trouve que c'est très symbolique de la part de mon éditeur de l'avoir mis. Alors maintenant, ça peut aussi se lire, ce livre il a plusieurs lectures. Ça peut se lire comme de simples petites histoires sur les rivières, c'est pour ça que j'ai mis un S à histoire.
Oui, alors il faut dire un dernier mot, c'est la façon dont ce livre est conçu. Chaque rivière est présentée, j'ouvre au hasard, je vois la Brelle, entre parenthèses, Ossia, je pense que c'est son nom.
Toutes les fois que le nom latin est attesté, ou du moins à ma connaissance, mais je pense que j'ai fait des recherches suffisantes là-dessus, il y a des rivières dont on ne connaît pas le nom latin, je mets le nom latin en face. Je pense que c'est intéressant de le savoir, parce qu'il y a des gens qui croient que Loire, la rivière, et Loire, le fleuve, ont la même origine sémantique, c'est faux, puisque quand on regarde le nom latin, on s'aperçoit que le Loire c'est Lidus et que la Loire c'est Liguerre, ce qui évidemment n'a pas la même origine.
Alors la Brelle, donc nom latin Aussia, fiche d'identité, fleuve côtier se jetant dans la Manche, longueur 72 km, elle a failli ne pas figurer dans votre livre, à 2 km près.
Oui, mais j'en ai mis des plus petites, hein, quand elles étaient intéressantes, mais tout ce qui a plus de 70 y est.
Bassin 709 km², débit 4 mètres cube par seconde, altitude 188 à 0 mètre, type océanique calme, canoë et kayak sur 50 km, pêche très intéressante, truite anguille, très peu polluée, baptise 5 communes, ça veut dire qu'il y a 5 communes qui s'appellent sur Brelle,
exactement.
Et arrose Aumale, Blangy-sur-Brelle, Gamache, Eux, c'est bien comme ça qu'on dit?
Oui.
Non. C'est bien comme ça qu'on dit,
monsieur. Ça, c'est pas, comment ça s'écrit, monsieur le Becket?
E-U.
Ah, E? Oui.
Je me méfie.
Mais c'est bien E.
Alors, ensuite, un papier qui fait 2 pages et qui nous dit, quant au traité de Saint-Clair sur Epte, Charles le Simple cède en 911 la Normandie au chef viking Rollon. Aucun écrit n'est établi. Il faut donc donner à ce nouveau fief des limites naturelles qui restent en mémoire. Entre Rouen et Paris, l'Epte fait l'affaire. Alors, l'Epte, c'est une autre rivière dont il est question dans le livre. Une astérisque. Les périls, bien entendu, l'indiquent. Au nord-est, c'est la Brelle qui s'impose, profonde, elle coule, etc. Alors, il y a donc toute une description de la rivière, et puis ensuite, des précisions d'ordre historique. L'industrie du verre est née dans la forêt 2, mais le charbon qui remplace le bois pour chauffer les fours pénètre dans la vallée par le Tréport. On peut lire ça comme un roman, comme un guide, comme un essai. C'est un bouquin formidable. Parce que c'est un livre d'amour sur la France. Un mot, monsieur Amiche?
Oui, moi ce que je trouve formidable, c'est que toutes les rivières en France aient un nom. Et un nom très ancien. Bon, on n'est pas le seul pays au monde, bien sûr. Hein. Mais par exemple, chacun sait qu'en Afrique, toutes les rivières ont aussi un nom.
Oui.
D'ailleurs, beaucoup
sont donnés par les Français, d'ailleurs.
Beaucoup de noms s'appellent, c'est la rivière d'Ilo.
Pourquoi? Parce que quand les explorateurs sont arrivés en Afrique pour découvrir le continent, ils demandaient aux peuplades, aux indigènes, comment s'appelle cette rivière? C'est Dilo. Ce qui fait qu'on trouve sur les cartes, encore aujourd'hui sur la carte de l'Afrique, une bonne centaine de rivières qui s'appellent Dilo.
Tu sais que c'est l'histoire de, c'est presque exactement l'histoire de, du baptême du Sénégal, quand le premier colonisateur est arrivé et a fait par geste comprendre aux nègres qui étaient là et qui voulaient savoir comment s'appelait cet endroit. Il a donc montré l'endroit, mais sur le chemin du doigt, il y avait la,
la pirogue.
Voilà. Il y avait la pirogue. Et le nègre a cru que le gars lui montrait la pirogue. Alors il a dit, Sénégal, ça veut dire, c'est Nougal exactement, ça veut dire, c'est mon bateau. Alors l'explorateur est parti très très content en disant, ben, je sais enfin comment ce pays s'appelle. Et l'autre est parti en disant, je suis tombé sur un type qui n'a pas de couleur, une espèce de cinglé qui voulait me voler mon bateau. J'étais obligé de lui dire, non, c'est mon bateau. Voilà. Et ben, les rivières, c'est pareil. Et c'est resté Sénégal. Voilà. Merci Michel Grandin. Alors, une dernière question. Avez-vous eu de la peine à faire éditer votre bouquin? Parce que, a priori, ça paraît curieux de... on a l'impression que quand on arrive chez un éditeur et qu'on lui dit, je vais vous faire un livre d'histoire et de portrait des rivières de France, le gars dit, écoutez, je préférerais que vous fassiez un livre de portrait des grandes courtisanes ou des aventures amoureuses tout ça. Non, ça vous n'avez peut-être pas
Avant ce livre, j'en ai fait éditer un autre, ainsi que j'ai fait allusion tout à l'heure. Et cet autre se présente exactement de la même façon. D'ailleurs, je veux dire, il y a une fiche d'identité, n'est-ce pas? Vous avez lu tout à l'heure une fiche d'identité. Il y en a une pour toutes les rivières. Et j'en ai fait un sur les villages où il y a 320 villages et où il y a une fiche d'identité sur chaque village.
Chez François Bourin aussi.
Chez François Bourin aussi. Alors voilà comment je m'y suis pris, monsieur. C'est très simple. J'ai écrit à François Bourin en disant, j'ai écrit un livre sur les villages de France. Je pense qu'il vous intéressera. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Alors il m'a reçu dans la semaine. Et puis nous avons signé un contrat 8 jours après.
Vous voyez qu'il y a encore des éditeurs intelligents.
Et il m'a vivement incité à en faire un autre et nous avons choisi le titre et je lui ai dit, il me semble que les rivières ça serait pas mal, à moins que ce soit lui qui me l'ait dit. Enfin, nous sommes tombés tout à fait d'accord.
Merci Michel Grandin. Rivières de France, alors c'est un livre parrainé par M. Pasquier, grand écologiste s'il en fut. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Victoria?
Une petite question, pourquoi certains noms de rivières sont au féminin et d'autres au masculin?
Ah, bonne question, oui.
Ça c'est très intéressant. Et on ne le sait pas, madame. On ne le sait pas. Alors, tout de même, on peut constater que les rivières, que si l'on prend le nom des fleuves, voyez-vous, le plus sauvage, le plus grandiose, le plus important, c'est le Rhône, il est masculin. N'est-ce pas? Tandis que les rivières, la Loire, la Seine et la Garonne, sont des rivières féminines. Mais je dois dire que ça ne correspond pas toujours à la réalité et qu'il y a des rivières dont l'article féminin qui sont furieuses et des rivières à l'article masculin qui ne le sont point. Vous avez par exemple, vous avez l'Arance et le Rance, n'est-ce pas, qui ne diffèrent que par l'article, sauf que l'Arance est en Bretagne et que le... Alors, je ne peux pas vous dire d'où vient le nom des rivières. Alors, c'est que le français, voyez-vous, est très compliqué. Car évidemment, quand c'est l'anglais, on met veut partout. Et alors en plus, nous avons les rivières et les fleuves, alors que l'espagnol et l'anglo-saxon, n'est-ce pas, ont le même nom. River ou Rio, ça vise aussi bien le Mississippi que le petit cours d'eau de...
Nathalie Manceau propose une explication qui rejoint un peu ce que vous nous disiez. Elle dit que les rivières ont un genre. La Loire est une grande dame, le Rhône est un garçon fougueux. C'est peut-être un peu ça, peut-être que c'est en fonction...
Oui, mais il y a un petit peu de vérité. Et puis alors il y a aussi le fait que les sources étaient des divinités féminines et que les rivières dont la source est fortement marquée par une divinité, ce qui est le cas de la Seine, sont féminines.
Alors Pasquier, qui est un panthéiste, on peut dire pratiquement.
On peut le dire.
Voilà, il est ravi là. Enfin, vous avez dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que les rivières sont des êtres vivants et probablement des divinités. En tout cas, des incarnations d'entités, comme on disait. Ce sont des lutins incarnés en rivière, peut-être, non?
Oui, enfin des déesses, des naïades.
Vous préférez des déesses?
Je préfère des déesses.
Monsieur Amiche,
le mot Bourbon, dont on parlera peut-être. Oui. La suite des temps,
c'est
la suite de cette émission en tout cas, sinon du temps, c'est une déesse Borvaux, c'est une déesse des sources, donc tout à fait gauloise.
Ah bah nous y voilà. Il est arrivé voilà.
Et qui a donné d'ailleurs le nom à une rivière qui s'appelle la Bourbin, c'est qui a exactement la même origine.
Bon, l'Archambault, etc. Enfin, tout ça c'est très...
Merci. Voilà. Si vous voulez rester avec nous, on va parler de, non plus de déesse, mais de roi et de princesse. Je crois que
c'est... Ça m'intéresse beaucoup, mais j'en ai déjà parlé avec l'auteur et j'ai différents problèmes de,
eh bien, écoutez,
de déplacement.
On vous rend votre liberté. Merci, et, monsieur Grandin.
Qui m'oblige à visiter.
On peut vous retrouver alors en lisant votre livre paru chez François Bourin, Rivière de France.
Voilà, Serge, un petit jingle sympathique.
Oui, pour... jingle, c'est bien, ça commence bien. Je vais encore me faire égorger par nos amis défenseurs du vrai français.
Comment doit-on dire?
Une virgule sonore.
Une virgule sonore, qui était une longue virgule.
Alors, en l'occurrence,
c'était plutôt des points de suspension.
C'est vraiment une virgule, c'est-à-dire que ça fait vraiment penser... Ben, donc, ça s'appelle Vive le Roi.
Ça s'appelle Vive le Roi, c'est de Didier Barbelivien, que tout le monde connaît. Enfin, c'est un grand parolier.
Oui, non, les paroles sont belles.
Les paroles sont très belles, le refrain est très intéressant.
La musique, c'est...
Oui, on aime ou on n'aime pas, voilà, ça fait pas grand siècle, c'est moderne.
C'est moderne.
Bon, et donc, puis ça dure pas trop longtemps. Donc c'est une chanson qu'il a écrite en 1989. Mm-hmm. C'est curieux
c'était
parce
bien
que
bien d'écrire Vive le Roi en 89.
Ouais, comme c'est pas mal pour lui de faire un recueil qui s'appelle Vendée 93 en 1993, je trouve que par rapport aux pratiques habituelles du show business, deuxième mauvais point de la soirée,
du monde du spectacle.
Oh, mais c'est pas possible.
Moi je ferai suivre les lettres.
Je trouve que c'est assez sympathique et que ça méritait un petit coup de chapeau.
Alors, pourquoi Daniel Amiche est-il là? Parce que nous avons résolu de consacrer régulièrement une partie de cette émission.
Une grande partie de cette émission
aux nouvelles de la famille, de la branche royaliste de la famille. Et donc, Daniel a accepté de prendre ça en main et de réunir autour de ses micros des représentants de la famille ou des gens qui s'intéressent à la famille parce qu'ils ont écrit un livre, parce qu'ils ont fait un film, parce qu'ils ont enregistré un disque avec de la musique ou toute autre raison, parce qu'ils font des conférences, etc., etc. Alors, moi, là-dessus, je fais un pas de côté. Et je m'efface devant Daniel Amiche qui prend maintenant la direction des opérations.
On va tâcher, mais j'espère, Serge, que vous allez quand même m'assister un peu pendant les quelques dizaines de minutes que nous allons passer ensemble. Je crois que ce soir, pour lancer un petit peu cette émission, eh bien, nous avons parlé un peu des rivières, nous avons parlé de l'eau. Là, nous allons peut-être parler un petit peu d'un autre élément liquide, mais qui n'est pas vraiment l'eau. C'est plutôt du côté du vin que nous allons nous tourner, puisque nous avons la chance d'avoir ce soir en la personne de notre ami Claude Giry, qui est un vice-président d'une association qui s'appelle Henri V, Côte de Chambord de Chambord.
Non, pas Côte de Chambord.
J'allais dire, donc un représentant d'une association qui a relancé, depuis quelques années, les banquets légitimistes, qui étaient extrêmement fameux au siècle dernier. La devise des légitimistes, c'était Dieu, la bouffe et le roi. En gros, on peut dire ça. L'ordre, ça dépend de ses convictions personnelles. Donc nous allons parler un petit peu avec lui d'un prochain grand banquet qu'ils organisent à Paris le 10 mai. Le dimanche 9 mai. Et puis, j'écris aussi...
En somme, c'est pratiquement dimanche prochain. Hein.
C'est le dimanche qui arrive. C'est pour ça qu'on a préféré en parler aujourd'hui plutôt que dans 15 jours. Voilà. Puis je ne sais pas si on sera en état d'en parler dans 15 jours, parce que d'après ce qui se prépare et que notre ami Jiri va nous parler, ça risque d'être extrêmement intéressant, mais aussi très incapacitant pour les jours qui suivront. Et puis, j'ai trouvé qu'il fallait également... parler de la royauté dans les personnes qui ont fait la royauté, dans les rois notamment. Et il y a la chance, une chance tout à fait extraordinaire, c'est que vient de paraître un livre que j'ai jugé très intéressant sur Charles IX. Charles IX, la France divisée par Dieu. Or, il n'y a pas eu de biographie de Charles IX depuis très longtemps. C'est un roi assez méconnu qui est affublé d'une légende noire. Et j'ai demandé à une personne que j'estime beaucoup, M. Emmanuel Bourassin, qui est un historien très connu, qui a fait déjà beaucoup de livres, d'avoir la gentillesse de venir en parler un peu avec nous. Et il nous a fait l'amitié de se joindre à nous ce soir. Alors nous allons quand même commencer par les choses substantielles, si je puis dire, et nous avons parlé un petit peu avec notre ami Claude Giry de ce banquet qui est organisé donc dimanche prochain. D'abord peut-être, Claude, pourriez-vous présenter un peu l'association que vous animez avec d'autres amis qui, je crois, cette année son 10e anniversaire.
Tout à fait. C'est une association qui a été créée en 1983 par maître Franck Bousco à l'occasion du centenaire de la mort du comte de Chambord. Elle fête donc, comme vous l'avez dit, cette année son 10e anniversaire. Son président est Guy de Coitarel. Si vous le souhaitez, je peux parler des buts de l'association
très rapidement. Bien sûr, quelques mots, bien sûr.
Bon, deux buts essentiels, c'est d'étudier l'œuvre de la royauté française, de la défendre et de la faire connaître en agissant au plan culturel et politique. Et puis également, de défendre les droits de Mgr le duc d'Anjou, aîné des Capétiens, et à ce titre, successeur des rois de France.
Bien. Pardon, c'est moi qui...
Merci de votre franchise et des informations que vous donnez sur l'association, qui fête donc son 10e anniversaire. Il faut dire aussi donc qu'en 1993, donc ça fait 110 ans que le comte de Chambord est mort. Et grâce à son sacrifice, je dirais, il a maintenu quand même quelque chose de l'héritage monarchiste.
Il a maintenu intact.
Beaucoup de royalistes, et je pense que tous les royalistes en règle générale, sont extrêmement attachés à cette figure emblématique. Alors, à présent... je dis un peu trop souvent, un peu et un petit peu, pour me passer un message. C'est vrai, c'est un tic de langage, mais croyez-moi, je me corrigerai.
Mais c'est pour te corriger. Qui bene amat bene castigat, que je l'ai écrit.
Oui, je connais une histoire, vous la connaissez tous les deux, Serge, on la raconte ça un jour à l'antenne. Maintenant, nous allons parler des banquets légitimistes du 19e siècle, puisque...
Peut-être avant, si vous le permettez, j'aurais voulu parler des activités diverses de l'association, oui. Avant d'en venir peut-être au banquet.
Ah ben, tu peux, allez-y.
C'est terrible.
C'est tout d'abord l'organisation de dîners-débats avec des personnalités assez diverses, puisque nous avons pu avoir Guy Auger, Pierre Ordioni, Georges Bedel, Madame Musso-Goulard, Marc Dem, qui est connu, je pense, sur les antennes et surtout dans cette émission, Hervé Robert, Jean Barbet, et puis même, me souvient-il, un certain Daniel Amiche, qui a traité en 1989 de Louis XX, héritier du millénaire.
Il n'est jamais revenu d'ailleurs depuis 89.
Je m'inscris en faux, il est revenu souvent.
Bien, je pense que maintenant vous avez fait quand même un petit tour de votre association. Je crois qu'il faut passer un peu rapidement à la suite de notre programme. Et nous allons parler des banquets légitimistes du 19e siècle, une grande institution légitimiste. Est-ce que vous pourriez dire deux mots là-dessus? Comment c'est né? Pourquoi il y avait ce genre de manifestation?
Oui, je crois que je peux dire même un petit peu plus de deux mots, si vous le permettez. Au lendemain de la mort du comte de Chambord, donc en 1883, les légitimistes fidèles que leurs adversaires orléanistes ou fusionnistes appelaient par dérision les Blancs d'Espagne s'organisèrent autour de quelques journaux comme le Journal de Paris ou l'Union, et de quelques fidèles d'Henri V comme Maurice d'Andigné, Joseph Dubourg, ou encore le général de Catelineau, qui était le petit-fils du célèbre Catelineau mort en Vendée en 1793, et fils également d'un autre Catelineau mort en 1832 lors de l'équipée des duchesses de Berry. Alors, des comités légitimistes se constituèrent à travers la France, qui se structurèrent autour d'un comité central de propagande légitimiste siégeant dans la capitale. Ça semble loin tout cela des banquets, mais vous allez voir, nous y arrivons. Ce mouvement tenait entre autres activités un congrès annuel, qui se terminait par un banquet assez vite réputé pour sa qualité et ses menus pantagruéliques. Il se tenait à la salle des fêtes de l'hôtel Continental, 3 rue de Castiglione, généralement en juin ou en juillet.
L'hôtel existe toujours, je crois.
Tout à fait. Mais il n'y a plus de banquet dans ce lieu. Si les journalistes orléanistes boudaient le festin, on doit constater que les journalistes républicains et accessoirement bonapartistes y accouraient de très grand cœur.
Ont toujours aimé aller à la soupe.
J'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour vous suggérer éventuellement de faire traiter un jour par un historien compétent le rôle des banquets dans le petit ou la grande histoire de France au XIXe siècle. Cela devrait être passionnant. Oui. Revenons à nos banquets légitimistes, pour lesquels étaient composés des menus ou le potage à la royale, le gâteau breton et le mousseux d'Anjou, le disputé selon les exigences de l'actualité au saumon à la russe, au petit four orléaniste ou au vin de Madère.
On mangeait des petits fours, oula,
nous n'assistons pas.
Alors il ne faut pas insister là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous donner un menu type de ce qui se dégustait dans ces banquets
légitimistes? Tout à fait, mais il faut par avant que je prenne mon souffle. Prenons par exemple celui de l'année 1885. Potage à la royale, hors d'œuvre variée, saumon sauce crevette, filet de bœuf au chevreuil, jambon d'York sauce Madère, poularde de farci aux truffes, salade, petit pois à la française, bombe Ceylan, genevoise glacée à l'orange, et in fine, dessert avec un S, nonobstant ce qui précédait. Quant au vin, Médoc en carafe, Torrens, Anjou mousseux, café et liqueur.
Et liqueur, oui. Vous ne pensez pas que c'est à cause de ça que la restauration s'est pas faite, en réalité?
La restauration, c'est vraiment le mot. J'ai un auditeur téléphone en disant: nous aimons beaucoup vos émissions, mais de grâce, ne nous parlez plus de la royauté, on perd son temps, de toute façon, elle ne reviendra pas. Effectivement, s'il faut avoir des menus comme ça, j'espère qu'elle ne reviendra pas. On ne va pas résister 3 mois, comme ça, on va tous mourir de suralimentation.
Oui, enfin, faut plus rire de ça ou d'autre chose, après tout.
Bon, alors.
Bien, passons peut-être à la manifestation de dimanche prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire,
Serge? J'espère quand même que ce sera plus décent comme menu.
Bah, c'est ce que j'allais dire, il ne faudra pas s'attendre de toute façon à un menu aussi copieux. Certains en seront soulagés, peut-être d'autres déçus.
Oui.
Mais je pense quand même que ce ne sera pas inintéressant.
Alors qu'est-ce qu'il y a
au menu? Sans atteindre de tels sommets.
À part la nourriture, qu'est-ce qu'il y a au menu de cette journée?
Bah, alors, deux personnages seront évoqués. Tout d'abord, Sainte Jeanne d'Arc, la sainte du jour. C'était à l'origine l'abbé Anna Laurence qui en était chargé, mais une obligation impérieuse l'en empêche, et nous le regrettons, mais ce n'est que partie remise. Et nous avons demandé, à votre avis, à quelle personne de le remplacer?
Guy Auger, je suppose.
Gagné. Il a bien sûr tout de suite accepté. Et je voudrais avec beaucoup de force dire combien le légitimisme actuel est redevable à notre ami, toujours disponible et toujours aussi talentueux. Ensuite, le deuxième personnage qui sera évoqué sera Jacques Perret. C'est Jean-Baptiste Chomeil qui a bien voulu accepter de nous éclairer sur quelques facettes de la personnalité et de l'œuvre de ce grand écrivain disparu il y a peu.
Si Jacques Perret est le bon Dieu, Jean-Baptiste Chomeil est le pape. C'est vraiment probablement celui qui connaît le mieux l'œuvre de Perret, l'homme. Il voue une espèce de passion à Jacques Perret. Et on l'a reçu plusieurs fois d'ailleurs à ce micro pour parler de cette passion.
Je ne voudrais pas dévoiler des secrets, mais je crois qu'il a en projet la constitution d'une association des amis de Jacques Perret.
Ça serait une très bonne idée.
Je pense que c'est une excellente idée.
Il a déjà fait une exposition superbe sur Jacques Perret. Il s'occupe de faire rééditer ses œuvres les moins disponibles. Et notamment, il avait fait une superbe petite édition de bibliophilie sur le paquet de gris.
Exactement.
Qui s'arrache maintenant.
Et qui est un morceau d'anthologie merveilleux.
Pure merveille.
Alors, il y aura également un concours de questions relatives à l'histoire des trois dynasties et à celle du légitimisme. Question concoctée par Christophe Lehental, qui est bien le seul à les trouver faciles.
Oui, je me souviens pour avoir participé moi-même à un déjeuner organisé par cette association, m'être fait vraiment étendre. Je crois que j'avais eu tout juste la moyenne.
Mais nonobstant, vous étiez, si j'ai bonne mémoire, quand même dans les 5 premiers.
Oui, mais ce qui donne, qui montre quand même on n'est pas très fort en histoire. Alors je vais...
Il y en avait 6. Non, il y en avait davantage. Mais je voudrais quand même rassurer les éventuels hésitants. Personne n'est tenu de remettre la copie. Il s'agit bien sûr d'une démarche totalement volontaire.
Non, je crois qu'on chantera aussi un peu.
Bien sûr, ce sera entrecoupé de chansons traditionnelles, interprétées par toute l'assistance, avec d'autant plus de facilité qu'une feuille de chant sera remise à chaque convive.
Vous êtes des gens prévoyants à l'association 52.
On essaie. On n'y arrive peut-être pas toujours, mais on essaie.
Bien. Alors comment faut-il faire pour participer à ce banquet légitimiste qui a un goût d'autrefois?
Alors, compte tenu de la proximité de la date, il n'y a qu'une façon de procéder, c'est de nous écrire, et je demande donc aux éditeurs intéressés de bien vouloir prendre de quoi écrire, et d'adresser leur courrier à l'association Henri V, boîte postale 255 16 75 766 Paris CEDEX 16.
Bien, j'espère que tout le monde avait de quoi noter.
Je peux le éventuellement. L'association Henri V, boîte postale 255 16 75 766 Paris CEDEX 16. En joignant un chèque à leur demande, le prix est de 250 francs par couvert. Et surtout, surtout bien indiquer le numéro de téléphone grâce auquel nous pourrons vous donner l'adresse du restaurant situé dans le sud de Paris. Si nous ne le donnons pas l'adresse immédiatement, c'est pour éviter les inscriptions de dernière minute sur place que nous serions obligés de refuser, ce qui mettrait à très grande épreuve la gentillesse de Jacques Galli, notre secrétaire général, ou de Monique Robert, notre grande argentière, ou encore de Gérard Faux.
C'est dans le sud de Paris.
C'est dans le sud de Paris.
C'est pas dans le sud de la France.
C'est dans le sud de la ville de Paris.
C'est vers la porte d'Orléans.
Très drôle, Daniel. Vous avez gagné le droit de revenir en deuxième semaine.
Eh bien, je remercie beaucoup Claude Giry de nous avoir fait cette petite parenthèse.
Je tenais quand même également à remercier Radio Courtoisie, Serge de Beketch et vous-même, Daniel, donc, de m'avoir donné cette possibilité.
Merci. Surtout l'enveloppe, pas trop de bruit. On est à la radio, on est
en direct. Non, c'est des billets, c'est souple, ça ne s'entend pas.
Alors, je voudrais, puisqu'on vient de parler d'un concours, je crois qu'on va parler aussi d'un concours sur Radio Courtoisie dans le cadre de cette émission, avec l'autorisation, bien sûr, du maître de ces lieux, c'est-à-dire de Serge de Beketch. Et nous allons lancer une petite opération auprès de nos auditeurs. Moi, je suis un enfant de Jean Noël et de Zappy Max. Ça vous, déjà, ça vous met à peu près, ou ça vous donne à peu près la tranche d'âge dans laquelle je me situe. Et j'ai toujours beaucoup aimé les concours radiophoniques. Alors, on va lancer un petit concours qui sera très richement noté. Là, je ne recule devant aucun sacrifice pour fidéliser entre guillemets les auditeurs de Radio Courtoisie. Et un petit concours qui sera aussi à thème royal. Donc, comment répondre, comment participer à ce concours, c'est très simple. Nous allons vous faire entendre une petite bande qui est en fait la bande-son d'un film. Il s'agit d'un film français. Et d'un film en français.
Un film français, monsieur.
Tout à fait français. Voilà. Il y a 1 minute 10 à écouter, et il y a tellement d'indices qu'ils sont donnés dans cette scène, qui est une scène entière d'un film, que vous allez très rapidement trouver le nom de ce film. Alors comment faire ? Bien, vous n'appelez pas à la radio pour donner le nom du film. Vous allez être gentil, vous précipiterez sur votre Minitel. Vous allez composer le 3615 Bourbon et vous allez aller directement à la messagerie. C'est le choix 5 du sommaire, c'est très facile.
Donc vous faites 3615 B-O-U-R-B-O-N.
Voilà, et vous rentrez dans un service Minitel, qui est un service Minitel tout à fait convenable. Oui. Minitel blanc, c'est pas Minitel rose, donc on peut y aller franchement. Vous allez au choix 5 du sommaire, c'est une messagerie. Et vous allez, bien sûr, laisser le message, le film du concours d'aujourd'hui est... Et cette messagerie a cette particularité, c'est que l'heure à laquelle vous téléphonez, ainsi que la minute et la seconde, s'inscrivent. Donc le premier qui aura répondu convenablement à cette question, à cette petite question surprise, et se verra récompensé d'un prix tout à fait intéressant. Et puis disons que, comme nous sommes très généreux ce soir, les 10 suivants, auront le droit à un petit lot de consolation qui sera pas quand même désagréable. Donc, vous allez écouter, il y en a pour 1 minute et 10 secondes, vous allez reconnaître des voix, j'ai laissé tout entier, faites attention, la musique compte aussi pour reconnaître le film, écoutez bien, il est question de la royauté, mais ce que je veux savoir, c'est quel est le titre du film.
D'où viens-tu ?
Je te l'ai dit, j'étais au coiffeur.
Mais regarde tes cheveux.
Justement.
Comment justement ?
J'avais rendez-vous avec Alfred, il a fait qu'il sache travailler. Il est parvenu alors je l'ai attendu.
Jusqu'à 10h du soir.
Mais non, pas jusqu'à 10h du soir, ce que tu fais.
C'est pas assez pour te croire, d'où viens-tu ?
Pas touché, t'aurais dû te mettre juge d'instruction.
Peux-tu me dire d'où tu viens ?
J'ai été prendre l'apéritif avec un monsieur très important, là.
Brillant peut-être.
Brillant ? Pourquoi dis-tu ce nom-là ? Ah, je vois. C'est Dora qui m'a mouchardé, naturellement.
Je vais prendre ça. Dora va se réveiller à tes portes. Elle a fait son devoir en prévenant. Brignon est un sale type, un individu dangereux.
Elle en sait quelque chose.
Une raison de plus. Pour moi, si Brignon était un bourgoube, et encore on l'aurait mis à Londres.
Ça y est, j'attendais ça. Les capitalistes, les capitalistes. Alors, on peut y aller.
Mais vas-y.
Tu leur en veux aux riches parce que tu ne sais pas gagner d'argent. Moi, je suis pas comme toi, j'en veux ma part de leur fruit. D'abord, je suis pour la royauté.
Oh, ils sont pas chassis, ton père était un ouvrier.
Et après, si j'avais vécu sous Louis XV, ben, j'aurais été la compagnie, au moins. Et les sans pilotes, ben, ils auraient eu chaud, en fait.
Ouais, t'es toi-même qui es odieux.
Alors la musique que vous venez d'entendre est assez symptomatique du film. D'ailleurs ici dans le studio, beaucoup de personnes présentes autour des micros, y compris à la technique, ont découvert le titre du film. Donc c'est pas très difficile.
Mais on n'a pas le droit de bourbonner, on peut pas faire 36-15 bourbons pendant l'émission, donc on ne pourra pas gagner.
C'est impossible pour ici, puis vous faites partie du comité, donc c'est pas possible que vous puissiez gagner un concours interne. Alors voilà pour ce petit concours, répondez...
Donc, rappelons, il faut donner, il faut faire 36-15 bourbons...
Voilà, et donner le titre du film dans la messagerie.
Le titre du film dont vous venez d'entendre un extrait avec une des plus jolies actrices de cette époque-là. Oh, qu'est-ce qu'elle était jolie.
Elle était magnifique, elle savait tout faire.
Elle avait une voix.
Elle était belle, elle savait jouer la comédie, elle savait chanter, elle savait se tenir, c'est une véritable merveille. Enfin,
non, Victoria est jalouse, Victoria n'aime pas qu'on dise du bien
Je ne suis pas jalouse, je vois son visage et je ne trouve pas son nom.
On vient de vous le dire, ma bonne amie.
On vous l'a dit hors antenne.
Vous n'écoutez pas.
Nous vous le redirons tout à l'heure hors antenne.
Elle n'écoute même pas ce qu'on dit hors micro, c'est quand même extraordinaire.
J'écoutais le texte.
Daniel,
avant de...
Je n'ai pas dit qu'elle était morte non plus.
C'était une merveilleuse actrice.
Mais parce que nous ne la voyons plus.
Voilà, silence, on n'en dit pas plus. 36-15 bourbons, vous tapez le titre du film.
Et puis, si vous le souhaitez, si vous le désirez, si les gens sont satisfaits, vous pouvez d'ailleurs vous exprimer aussi par lettre ou par téléphone pour dire l'intérêt que vous avez à ce genre de petit concours. Nous récidiverons.
Et le premier prix, qu'est-ce que c'est? C'est une place à Reims pour le jour du sacre.
Alors ça, ce serait quand même... ce serait pas mal, dans le fond. Bien. Non, mais c'est pas ça, le premier prix. Voilà, il y aura une surprise. Laissons un peu la surprise.
Voilà, laissons la surprise.
Donc, quelques petites annonces rapidement d'un certain nombre de manifestations qui vont se tenir à Paris. Je souhaitais inviter les auditeurs à se rendre à la projection d'un film qui a été réalisé par un monsieur qui s'appelle Gonzague Claudet-Zeno. Le film a été déjà projeté à Lyon, et on m'en a dit beaucoup de bien, qui s'appelle 1793. Cette projection sera suivie d'une conférence par le professeur Luc Boinard, que je crois, M. Giry, vous connaissez aussi, sur la noblesse française dans la tourmente révolutionnaire. Alors c'est une projection suivie de conférences organisée par trois associations, France Bourbon, Institut de la Maison de Bourbon et SASDA, qui aura lieu le vendredi 14 mai 93 à 20h30 à la mairie du 16e arrondissement. Alors il y a un téléphone si vous voulez, c'est le 46 33 40 87. Donc c'est un film.
À propos de film, je voudrais dire que le film de Planchon, Louis Enfant roi,
oui.
Suscite un maelstrom d'opinions contradictoires. Daniel nous a dit que c'était un film qui lui avait fait faire une réflexion, qui était une très belle réflexion sur la royauté. Comment s'appelle-t-il, notre ami Jérôme Brigadier a fait une critique en disant que c'est un film superbe. Sanders m'a envoyé une lettre en me disant c'est un film ignoble et répugnant, c'est une planchonnerie savonnée de marxisme à ne pas voir, etc. Des amis qui sont allés le voir ont dit heureusement qu'on n'a pas emmené les enfants, parce que
c'est pas recommandé d'emmener les enfants.
Ça, c'est vrai qu'il était bien précisé que ça n'était pas pour les enfants. Donc c'est un film
controversé,
extrêmement controversé. Allez le voir si vous en avez envie pour vous faire une opinion vous-même. Voilà, il faut savoir que les avis sont très 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 partagés sur ce film. Il y en a qui le trouvent superbe, il y en a qui le trouvent absolument répugnant.
Voilà. Et bien, au moins l'intérêt de ce film, c'est qu'on parle du roi.
Voilà, c'est déjà ça. Comme dans cet extrait où cette fille d'ouvrier dit moi je suis pour la royauté.
Voilà. Et que pensez-vous du livre de Xavier de Roche, Louis XVII?
Bon, nous aurons l'occasion, là aujourd'hui ce n'est pas dans le cadre de cette émission, c'est en programme, mais nous aurons l'occasion certainement de parler non seulement du livre de Monsieur de Roche, mais également de ce thème de la survivance. Je crois que nous aurons prochainement un débat sur cette question. Autre petite annonce aussi, et je salue en passant notre excellent ami le docteur Bondou, qui doit être à l'écoute ce soir, et que Monsieur de Beckel je connais aussi, ainsi que Monsieur Giry, parce que le cercle qu'il préside, le cercle Prince de Talmont du Mans, organise une conférence débat le vendredi 14 mai à 20h30 en l'hôtel Arcade, salon Bugatti, je crois que ça va gazer fort ce soir-là, au cours de laquelle Arnaud de Lassus, président de l'Action familiale et scolaire, traitera du thème le nouvel âge. Donc les personnes qui sont intéressées, nos auditeurs du Mans, peuvent prendre contact avec le cercle Prince de Talmont au téléphone au Mans, donc 43 20 98 18.
Si je peux faire une annonce aussi, je voudrais rappeler, parce qu'on l'a déjà annoncé, mais je voudrais rappeler que samedi aura lieu à l'hôtel Nico
à partir de 10h du matin, le 4e Carrefour Royal d'Action Française sur le thème « La contre-révolution ». Et je suis obligé d'en parler parce que je serai l'animateur du débat, n'est-ce pas ? J'aurai le plaisir...
À tout seigneur, tout honneur.
Voilà. Donc, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'invite tous les auditeurs qui s'intéressent à ces questions passionnantes de venir assister à ce débat qui traitera de l'insurrection. Jeunesse et insurrection, deux mots qui vont fort bien ensemble, ma foi. Ça se passe à partir de 10h à l'hôtel Nico à Paris. C'est le 4e Carrefour Royal d'Action Française.
Parfait. Samedi, donc, 8 mai. Samedi 8 mai. Donc nous avons un début de mois de mai extrêmement chargé.
Et le lendemain, le cortège traditionnel.
Et le lendemain, le cortège traditionnel.
À 9h, place Saint-Augustin.
La fête... nationale de Jeanne d'Arc. Alors je voulais aussi rappeler, on en a déjà parlé sur la fréquence de Radio Courtoisie, donc rappeler deux expositions actuellement en cours, qui continuent encore à attirer du public d'ailleurs. L'exposition dont j'ai déjà dit quelques mots il y a 3 semaines, donc du Duc d'Anjou à Philippe V, qui est organisée au musée de Sceaux, qui est prolongée jusqu'au 27 juin. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler, parce que je crois que le directeur du musée de Sceaux et donc la personne qui a été la cheville ouvrière de cette magnifique exposition a accepté de venir échanger quelques propos avec moi sur Radio Courtoisie. Donc je pense que dans une quinzaine de jours nous pourrons nous entretenir de cette exposition vraiment tout à fait remarquable par la qualité des pièces qui sont exposées. C'est une très belle initiative du Conseil Général des Hauts-de-Seine, il faut le dire, c'est tout à fait remarquable. Je signale donc que l'exposition est ouverte tous les jours sauf bien sûr le mardi, qui est le jour de fermeture traditionnelle des musées, de 10h à 18h. Donc c'est au musée de Sceaux, et bien pour aller à Sceaux, on peut y aller bien évidemment par le RER, c'est très pratique, c'est la ligne de Sceaux, et on descend à Parc de Sceaux, enfin je crois que ça s'appelle Parc de Sceaux, et on se trouve directement à l'exposition. Également, il faut rappeler la tenue à Paris de l'exposition Vendée Chouannerie, l'Ouest dans la Révolution 1789-1832, qui est une très belle exposition, extrêmement abondante par la qualité de ce qui est exposé, qui a été organisée par une association qui s'appelle Histoire et Mémoire de l'Ouest, que préside un de nos amis, Yves Laurence, et dont le conseiller technique a été bien sûr Rénal Secher. Alors cette exposition se tient à Paris, salle des Blancs Manteaux, c'est 48 rue Vieille du Temple, dans le 4e arrondissement, elle dure jusqu'au 31 mai, et elle est ouverte tous les jours de 11h à 18h et le mercredi jusqu'à 20h. Voilà les expositions que nous pouvons actuellement encore voir à Paris et en région parisienne. Je crois à présent, Serge, que nous allons devoir faire une petite pause puisque
oui,
nous arrivons à la fin.
On a encore quelques minutes, mais je vais en profiter pour donner de façon exceptionnelle la parole à Marc Dem, puisque il nous fait la bonne surprise de venir parmi nous. Bonsoir Marc. Donc, vous avez quitté votre tébahi de Cantaloupienne.
De temps en temps, ça m'arrive.
Il y a un problème de micro. Alors attendez, il faut que vous changiez de micro. On va voler le micro, monsieur. Voilà. Si vous voyiez avec YI le balai des micros, vous seriez enchanté. Voilà, Marc, tenez votre micro.
Bien, je
sais. C'est une espèce de serpent qui siffle sur nos têtes. Marie-Caroline, bonsoir. C'est la délicieuse, adorable Marie-Caroline Le Pen qui fait son entrée dans le studio. Qu'est-ce que je suis content. Daniel, vous allez être obligé de lui céder la place pour quelques minutes.
Je vais faire avec grand joie.
Mon cher Marc, quelles sont les nouvelles de notre Sainte Mère l'Église? Elles sont-elles bonnes?
Hélas, elles ne sont pas très bonnes. Je suis désolé, je ne les invente pas. Oui, j'ai vu, comme vous sans doute, la photo saisissante du toit de la cathédrale d'Évry, qu'on était en train de mettre d'un seul bloc, était fait au sol, avec une grue géante. Et cette photo est saisissante parce que dans le ciel, on voit se profiler un triangle. Un triangle, la pointe en bas d'ailleurs, c'est comme ça qu'il sera, définitivement. Et le plus angoissant, ce qu'a dit le maître du projet, c'est-à-dire le père Bobière, ce projet va changer l'image de l'Église. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire.
Vous savez ce que ça veut dire Bobière, en vieux François?
Ah non?
Ça veut dire trompeur.
Et
c'est curieux.
Intéressant. Hein. Et ça s'écrit de la même façon.
Oui, oui, B-O.
Je mettrai ça dans le prochain numéro.
Accent grave R-E-S. Oui. C'est très bizarre. Cette affaire de la cathédrale est une affaire extraordinairement lourde en symbolisme inversé.
Oui. Oui.
On fera, tiens, on va faire une émission un jour là-dessus. J'ai plein de choses
à raconter. Je crois que ça serait bien. Et alors, on pourra retrouver un tas de.
Alors, vous avez encore deux minutes, m'indique-t-on par signe, pour donner d'autres informations.
Bon. Alors, ça va beaucoup mieux chez les Suédois. Il y a 6 ans. Il, 1 sur 3 disait croire en Dieu, tout au moins admettre l'existence d'un être supérieur. Maintenant, ils sont 2 sur 3. Non, ils sont 1 sur 2, pardon. Ils sont 1 sur 2, ce qui est un progrès. Et en plus, 1 sur 2 qui disent prier. Alors, les sociologues se sont vraiment demandé pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que le chômage est en augmentation et que la situation économique est difficile. Sans être sociologue, je l'aurais deviné. On est trop heureux, c'est pour ça qu'on n'est pas très chrétien. Troisième nouvelle.
Oui. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, oui. Je cherche s'il y en a une autre bonne. Ah ben, si on veut, enfin, d'une certaine façon, comment résoudre le problème de la pornographie et de tout ce qui s'ensuit, du sida par le fait même. Eh bien, les musulmans de Malaisie l'ont trouvé. C'est très simple. 100 coups de fouet pour la prostituée et son client, 40 à 80 pour les consommateurs de drogue. Bon, si vous êtes atteint du virus, hop, on vous met en quarantaine et on vous fait revenir à la religion. Donc, la loi islamique est bonne pour tous, disent-ils, et très efficace dans ce domaine. C'est certain.
Malaise en Malaisie, comme aurait dit le 1617. Merci Marc. Alors, je rappelle que ces informations et tant d'autres sont tirées de Iota Unum, lettre de Marc Dehm, lettre d'information confidentielle religieuse. Ça paraît le samedi. Et l'adresse à laquelle on peut s'abonner ou à laquelle on peut envoyer sa carte de visite pour recevoir des échantillons, c'est boîte postale numéro 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Merci Marc. Merci d'être venu.
Radio Courtoisie, les 3h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez un libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Une émission du 5 mai 1993, rediffusée dimanche 23 mai 2010 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Marie-Caroline, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je suis content de vous recevoir parce que je voudrais vous adresser toutes les félicitations du jury pour un superbe exploit qui vient d'être réalisé par la SERP, qui est la maison d'édition que vous dirigez. Vous avez filmé le samedi.
Oui.
la manifestation, le grand défilé de la Jeanne du 1er mai, et le dimanche, c'est-à-dire le lendemain, si je connais mes jours, comme on disait quand j'étais petit, la cassette était distribuée, était en vente.
Tout à fait. Nous avons travaillé toute la nuit. La cassette audio était en fait prête à 6h du soir le samedi. La cassette vidéo nécessitait un montage. Et grâce à une équipe qui n'a pas dormi de la nuit, on a réussi à sortir. Donc la cassette était prête. Les premières cassettes vidéo étaient prêtes à 9h du matin. C'est-à-dire que le montage a été fait de 3h de l'après-midi à 8h du matin. Puis après, duplication par duplication, fournée par fournée, nous avons pu donc présenter la cassette audio et la cassette vidéo au Conseil national à tout le monde. Donc effectivement, c'était un peu un exploit.
Elle est très très belle en plus.
Elle est très belle et je pense qu'elle est assez réussie, oui.
Le dessin, j'allais dire le design.
La jaquette.
Le dessin en est fort beau. Ouais. Le contenu, c'est...
Le contenu, c'est... Alors, la cassette audio, c'est le discours de Jean-Marie Le Pen. La cassette vidéo...
Jean-Marie Le Pen, c'est un de vos parents, je crois.
Nous sommes assez proches, oui. Et la cassette vidéo reprend, en fin de compte, plutôt que d'avoir fait le défilé, puis le discours, parce que c'était trop long, c'est une cassette d'une heure. Sur la partie historique du discours de Jean-Marie Le Pen, nous avons mis des images du défilé, puis nous avons laissé pratiquement le discours politique sans images, avec des images de foule, ce qui permet d'entendre et de voir le discours de Jean-Marie Le Pen avec, en même temps, des images du défilé.
Voilà. Combien de caméramen ou d'hommes caméras ?
Nous avions trois caméras, nous avions une régie sous la scène. Nous avons commencé à monter sur place, ce qui a permis d'avoir la cassette montée et prête et à 40, 50, 60 et même 200 exemplaires vers midi.
Donc ça veut dire que tous les Français qui ont participé à ce défilé ou qui ont envie de le voir parce qu'ils n'ont pas pu s'y rendre samedi dernier,
tout à fait.
Peuvent acquérir cette cassette, voilà. Et se projeter ça à domicile.
Ils peuvent se la procurer soit à la CERPS, soit rue du Général Clergéry, puisque les éditions nationales ont pris la cassette audio et vidéo, et retrouver toute l'ambiance de Jeanne d'Arc qu'on retrouve, puisqu'on voit toutes les fédérations, toutes les musiques, tout le discours. Enfin, on ressent vraiment l'ambiance de Jeanne d'Arc, c'est vrai.
Quel est le prix?
Alors, le prix est de 150 francs, et la cassette audio est à 50 francs.
150 francs?
Oui.
Pour la cassette
vidéo.
Alors, pour cela procurer, on a dit, c'est 6 rue de Beaune.
6 rue de Beaune dans le
7e. 75-007 Paris.
À la SERP, soit aux éditions nationales, oui. À rue de Clergéry, puisque...
Ou 8 rue de Clergéry.
Voilà.
À Paris toujours.
Au siège, voilà.
D'autres projets du même genre?
Beaucoup de projets, parce que nous avons, j'ai décidé, mon équipe avec moi, de dynamiser l'entreprise. Nous comptons ressortir, bon d'abord continuer la nationale vidéo, lui adjuver des reportages, des revues d'actualité, beaucoup de sujets culturels et sociaux. Là, dans la cassette prochaine, nous avons un sujet sur le commandant Guillaume, sur Serge Dalins. Parce que nous suivons la vie du Front National, mais nous avons aussi des sujets culturels et sociaux qui bien sûr ne sont pas de mauvaises idées, mais qui permettent aussi de se tenir au courant de beaucoup d'autres choses. Et puis nous comptons faire des cassettes vidéo hors série, ainsi que des cassettes audio, puisque nous sortirons systématiquement tous les discours de Jean-Marie Le Pen en audio, et éventuellement nous ferons des sujets aussi culturels et sociaux en audio, parce que nous pensons qu'il ne faut pas rouler idiot et que c'est le moyen pour beaucoup de gens d'écouter des choses intelligentes plutôt que d'écouter Europe 1 par exemple.
pourquoi pas attaquer Europe 1, après tout il n'y a pas de raison. Ça me paraît un programme très intéressant, voilà. Vous êtes combien pour faire cette affaire?
Nous sommes trop peu, en fait pour l'instant nous sommes 4. Donc là, ça relève un peu de l'exploit, mais j'espère qu'on va s'agrandir. On va sortir aussi très bientôt, dans l'activité SERP, qui n'est pas liée au Front National, nous allons sortir très bientôt les poèmes de Fresnes de Brasillach, dit par Pierre Fresnet, en laser.
Réédition alors.
Une réédition, mais nous allons sortir en laser. Ouais. Ainsi que, je pense, les Chants d'Europe, et probablement la Révolution irlandaise, ça je pense que ça sera fait avant l'été. Et nous allons, au fur et à mesure, ressortir tous les grands disques de la SERP, qui sont un petit peu oubliés parce qu'ils, maintenant les gens demandent du laser. Nous allons tous, j'espère, très vite les ressortir en laser.
Bien, voilà un programme tout à fait intéressant. Alors, je rappelle, la cassette vidéo du défilé du 1er mai, 150 francs, pour quelle durée ?
Une heure.
Pour une heure, avec toutes les provinces, tous les cercles, le Cercle National des Combattants.
Bien entendu.
Superbe et généreux, derrière Roger, le Cercle des Femmes d'Europe.
Tout le monde.
Magnifique et élégant. Derrière Martine, enfin tout le monde, toute la famille est là, et c'est superbe, c'est plein de couleurs, c'est voilà. 150 francs, 6 rue de Beaune, 75-007 Paris, ou 6 rue du Général Clergerie.
8 rue du Général Clergerie.
8 rue du Général Clergerie.
Elles sont disponibles aussi là-bas.
Voilà. Merci Marie-Caroline.
Merci Serge.
Bientôt.
À bientôt.
Eh bien, rendons la parole au roi, enfin plus exactement à son représentant ce soir, Daniel Amiche. Et surtout, écoutons voir, si j'ose dire, un petit morceau de Gaudé Félix Francia.
Voilà, oui, c'est une...
Réjouis-toi, France heureuse.
Oui, c'est ça, réjouis-toi, oui, heureuse France, parce que c'est un conduit, je crois, pour le sacre de Saint-Louis, qui est reconstitué donc par le groupe Venance Fortuna.
Venance Fortuna.
J'ai la grande joie de...
On devrait parler comme ça. Je trouve
vous
ça
voulez dire, nous devrions parler...
Au lieu de parler, on devrait dire « Mon cher Daniel Amiche ».
Ça s'est fait au cinéma, vous savez déjà.
Oui,
ce sont les films les plus barbants qui aient jamais été produits en France.
Oui.
Alors, je voulais saluer ici la présence de M. Emmanuel Bourassin, qui nous fait l'amitié de venir partager quelques minutes avec nous dans le studio, et surtout qui nous fait la grande amitié d'avoir patienté tout ce temps avec nous à écouter nos babillages. Vous venez de consacrer un livre à Charles IX, c'est le titre de cet ouvrage publié aux éditions In Fine, titre de l'ouvrage à côté ou accolé d'un sous-titre qui est « La France divisée par Dieu ». Je prononce bien de telle sorte qu'on comprenne bien qu'il s'agit d'un jeu de mots, si je puis dire. Et j'étais intéressé par ce livre, pourquoi ? Parce que il y a très peu de choses sur Charles IX, il n'y a même pas de biographie récente sur ce roi méconnu, qui est comme une espèce de tache noire dans l'histoire de France, et qui est affublé d'une légende noire épouvantable. Or, ce jeune prince, qui devient roi à l'âge de 14 ans, et qui rend son âme à Dieu à 24, a vécu donc 10 ans et il a été pendant 10 ans roi de France. Et c'est vrai que...
Il a été roi à 10 ans, excusez-moi.
À 10 ans, ouais, merci 10 ans, de la précision, oui. Merci de la précision. Et je souhaitais justement, vous qui êtes un connaisseur et peut-être qui allez nous aider à redécouvrir un peu cette personnalité, ce prince très particulier, ce Valois, que j'aimerais que vous nous traciez le portrait psychologique de ce prince, comme vous l'avez vous-même approché dans vos études.
Ce qui m'a passionné dans le personnage de Charles IX, c'est que c'est vraiment un personnage dramatique, c'est un personnage de théâtre. En effet, c'est véritablement Hamlet roi. Shakespeare écrira son Hamlet bien après Charles IX, et il ne pensera certainement pas à Charles IX en écrivant ce drame célèbre, mais Charles IX est un prince qui, comme Hamlet, a toutes les qualités, il est extrêmement intelligent, il est lettré, il est sensible à la musique, aux arts, à la poésie. Ronsard et son ami, Germain Pilon et son protégé, il protège également François Clouet et toute l'école de Fontainebleau, mais il lui manque cependant une chose, et c'est l'équilibre. C'est un roi qui n'est pas équilibré. D'ailleurs, tous les fils de Catherine de Médicis et de Henri II, qui était un homme très équilibré, souffriront d'une tare terrible qui est ce déséquilibre hérité des Médicis qui commence à tomber en décadence en ce XVIe siècle. Donc Charles IX est un personnage qui est à la fois attachant et assez effrayant. Il peut être cruel, il peut être féroce même, mais il sait aussi aimer d'amour tendre une ravissante fille d'Orléans, Marie Touchet, et il sait aussi tourner des vers et composer de ravissants morceaux de musique. C'est donc un Valois, un un Valois type que Charles IX, et je pense qu'il était intéressant de ressusciter sa tragique silhouette.
Il est un des derniers Valois à régner. Après lui, son frère cadet Henri III va régner, mais il semble qu'il y ait une espèce de malédiction sur ces derniers Valois.
Eh bien, la race est épuisée. La race est épuisée parce que Henri II était encore un homme magnifique, mais Catherine de Médicis, qui était elle-même une femme en très bonne santé, qui vivra âgée, apportera dans le sang, dans le beau sang valois, les germes de putréfaction des Médicis. En effet, le père de Catherine de Médicis, Laurent, duc d'Urbain, mourra de syphilis après avoir contaminé sa femme, Madeleine de la Tour d'Auvergne. Donc, lorsque on pense que Catherine de Médicis était enfin une femme en bonne santé, elle l'a vu mourir la quasi-totalité de ses enfants, sauf la Marguerite de Navarre, la fameuse reine Margot, qui lui a survécu très largement, elle a vu mourir tous ses enfants.
C'est extraordinaire parce que nous parlons de Charles IX et immédiatement, le nom de la mère, le nom de la reine-mère revient dans cette conversation comme si elle-même était aimantée par de ce thème royal. Est-ce que l'on peut dire, de votre point de vue, que cette Médicis a contribué quand même à sauver la monarchie à une époque où elle était très menacée, parce que nous sommes là en plein dans les guerres de religion.
Certainement, il faut consulter les deux beaux livres d'Yvan Cloulas et de Jean Aurieux sur Catherine de Médicis pour savoir tout ce que nous lui devons. Ce que nous lui devons, c'est le maintien de la monarchie française. Car Henri IV, qui en tant que roi de Navarre avait beaucoup souffert de Catherine de Médicis, reprendra véhémentement le président du Parlement du Rouen lorsqu'il sera devenu roi, en lui disant « Monsieur, la reine Catherine était là toute seule devant nous avec ses petits-enfants, nous étions tous contre elle et il est heureux qu'elle n'ait pas fait pis ».
Un chapitre est particulièrement intéressant dans votre livre, c'est le chapitre 5. C'est celui sur le tour de France d'un roi enfant. On parle beaucoup des enfants rois en ce moment, des sujets qui sont un peu scabreux, mais celui-là est très intéressant. Parce que, voilà-t-il pas, qu'un beau jour, ce jeune roi, accompagné de sa mère, des princes de la cour de sa maison de 10, 15 ou 20 000 soldats, partent pour faire le tour de France. Et cette espèce de grande circumnavigation terrestre dans notre pays va durer 2 ans, 3 mois, 1 semaine. On va parcourir 4500 kilomètres pour aller se montrer. Quel était en vérité le sens politique de ce grand déplacement ?
On sortait de la première guerre de religion qui avait été sanglante et qui s'était terminée à l'avantage des catholiques par la bataille de Dreux. Et Catherine de Médicis voulait montrer son fils, l'enfant roi, aux différentes populations des villes qu'elle traverserait. Et il fallait donc faire un tour de France royal qui soit une réussite. Et en effet, sur le moment, il a été une réussite car le roi a été acclamé par les catholiques comme par les protestants. Et on est parti de Fontainebleau. À Fontainebleau, il y a eu des fêtes superbes. Ensuite, on s'est rendu à Lyon. On s'est rendu par Dijon, et Lyon était une ville test, si j'ose dire, car si Dijon était resté très catholique, Lyon était très partagé entre les catholiques et les protestants. Or, le roi y a été follement acclamé. Il faut se représenter, effectivement, quel était ce déplacement prodigieux de 10 à 15 000 chevaux et d'une dizaine de milliers de personnes, car la cour était là au grand complet avec les princes royaux, les princesses royales, les grands officiers de la couronne, les gardes, les pages, les valets de pied, les chambrières. C'était une véritable foule qui suivait le roi. Quel problème pour le grand maréchal des logis et les fourriers qui marquaient à la craie les logis du roi et de sa famille et des principaux courtisans pour les loger à l'étape suivante. Quel problème problème. Les gardes et les pages couchaient sous les auvents, dans les greniers, un peu partout. Bref, c'était un véritable torrent qui déferlait sur la campagne française. Mais il ne semble pas qu'il y ait eu du pillage. Le roi n'avait avec lui que des soldats d'élite qui ne pillaient pas, car ils étaient bien soldés. Et cependant, la cour n'était pas riche. Il est arrivé quelquefois qu'on s'arrête en route, car on attendait de l'argent, le trésor étant vide. On attendait des nouvelles rentrées pour aller dans l'étape suivante. Il y a eu des tragédies. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des rivières. On a voulu prendre le Rhône en péniche, et une péniche où se trouvait le jeune Gondi, maître d'hôtel du roi, s'est écrasée contre le pilier d'un pont. En passant à Salon-de-Provence, la reine a voulu revoir Nostradamus. C'est là que celui-ci aurait prédit à Henri de Navarre, qui était élevé avec les enfants royaux, qu'il serait roi de France. Ensuite, on s'est rendu sur la Bidassoa, car la reine Catherine voulait rendre visite à sa fille Élisabeth de France, reine d'Espagne et femme de Philippe II. Il y a eu une entrevue assez orageuse entre la reine et la reine mère et sa fille. La reine mère a dit à sa fille: vous êtes devenue maintenant madame bien espagnole. Et en effet, elle avait raison d'être espagnole, puisqu'elle avait épousé le roi d'Espagne. Mais Catherine de Médicis aurait toujours voulu que ses enfants soient à sa dévotion. Donc le jeune Charles IX a été follement acclamé. On est repassé ensuite par Toulouse, par le Massif central, par le Val-de-Loire, et on est rentré à Paris après ce voyage qui avait été une réussite, car on peut dire que Charles IX est probablement, avec Henri IV, le roi qui a le plus visité son royaume et vu le plus grand nombre de villes et de visages, de millions de visages de ses sujets.
Mais pour l'anecdote, on peut dire que ce voyage partant de Fontainebleau pour retourner à Fontainebleau, s'est accompli en même temps une révolution calendaire, puisqu'on a changé de calendrier à cette époque.
On a changé de calendrier, effectivement. C'est à cette époque qu'on a changé de calendrier. Il faut rappeler que jusqu'ici, l'année dans la plupart des régions de France commençait à Pâques, ce qui engendre des quantités d'erreurs historiques, puisque très souvent, il y a des erreurs chez les historiens dans les mois de janvier, février et mars, et même quelquefois dans les dictionnaires les plus sérieux.
Alors, il nous faut parler un petit peu des rapports du roi et de la famille royale avec les questions religieuses. La question religieuse est effectivement la chose qui a gâché, en fin de compte, le règne de ces derniers Valois.
Le règne de ces derniers Valois a été absolument submergé par la querelle religieuse. Était-elle évitable? Est-ce qu'Henri II, s'il n'était pas mort tragiquement en 1559 dans le tournoi des Tournelles, aurait pu l'éviter? Je ne pense pas, étant donné le nombre de conversions protestantes et leur acharnement. Toutefois, si Henri II avait vécu, il aurait été en position de force. Le roi était peu aimé, mais très respecté, car Henri II était un homme à la poigne de fer. Et à l'époque, on ne respectait que les forts. Donc, il fallait qu'Henri II fasse sentir le mort à ses sujets, et ses sujets, au fond, aimaient cela. Les minorités étaient toujours regardées avec suspicion. On se souvenait de la vieille parole de la Bible, « Malheur à la ville dont le prince est un enfant ». Donc, Catherine de Médicis s'est trouvée tout de suite confrontée avec le problème religieux qui a commencé avant le massacre de Vassy, qui a commencé en 1560 lors de la conjuration d'Amboise. Qu'est-ce que ça a été que la conjuration d'Amboise qui s'est déroulée sous le règne de François II? C'était une tentative de gentilshommes protestants pour s'emparer des oncles de la jeune reine Marie-Histoire, le duc de Guise et le cardinal de Lorraine, afin de leur ôter le pouvoir. Sous le règne de François II, fils aîné de Charles IX, donc le roi François avait très peu de pouvoir, bien qu'il fût majeur, mais la reine mère, elle n'avait guère de pouvoir non plus. Elle a repris cependant l'ascendant à la fin du règne de François II avec les tentatives de conciliation du chancelier d'hôpital. Ces états généraux se sont soldés comme un échec, par un échec comme le colloque de Poissy qui opposait le Théodore de Bèze, le protestant, et le cardinal de Lorraine, qui évidemment représentait les catholiques.
Il faut que nous disions peut-être un petit mot quand même sur l'affaire de la Saint-Barthélemy, une affaire grave, une espèce de tâche qu'on nous jette toujours au visage dans notre histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que ce massacre était aussi prévu que certains historiens
ou certains propagandistes le disent? C'est une suite de fâcheux hasard. Il est certain que Charles IX, en 1572, était sous l'influence de l'amiral de Coligny, chef protestant. Et Catherine de Médicis ne pouvait le souffrir. Et elle a tenté de le faire assassiner. L'assassinat a échoué. Et à ce moment, Catherine de Médicis, affolée, s'est abouchée avec le duc de Guise et avec son fils, le duc d'Anjou, futur Henri III, et ses conseillers italiens. Et à ce moment, elle a décidé de faire assassiner 12 chefs protestants en épargnant le roi de Navarre, futur Henri IV, et son cousin, le prince de Condé. Mais le sang appelle le sang. Lorsqu'on décide de se faire assassiner 10 ou 12 personnes, finalement, les passions se déchaînent. Les curés parisiens, il faut l'avouer, ont beaucoup fait pour ameuter les populations catholiques contre les protestants. Il n'y avait là pas du pillage. Il n'y avait là pas du pillage, car les protestants étaient souvent des gentilshommes et des bourgeois riches, et il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de catholiques sont morts dans le massacre, puisque des gens comme Bussy d'Amboise et Annibal de Coconas ont exterminé leurs créanciers, qu'ils soient catholiques ou protestants.
Bien évidemment. Bien écoutez, il nous reste à vous remercier infiniment de ce brillant exposé que vous faites dans une langue absolument limpide et très agréable pour les auditeurs, j'en suis sûr, et de rappeler donc le titre du livre que vous venez de publier aux éditions In Fine, Charles IX, La France divisée par Dieu, un moment difficile de notre histoire, un roi méconnu, dont peut-être vous contribuez ce soir et dans votre livre à éclaircir un peu la noire légende qui lui était accolée. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Bourassa. On ne va pas tout de suite écouter l'ultime morceau de musique, parce que je m'autorise, mon cher Daniel, à intégrer dans cette partie d'émission qui vous appartient nos amis René Duréau et Philippe Delongeau, que vous connaissez peut-être, ils protestent avec véhémence.
Les visages ne me sont pas inconnus.
Alors, et qui viennent nous parler, comme ils le feront jusqu'au moment crucial, de la grande réunion de famille du 22 mai au Mont des Alouettes. Alors, René Duréau, je voudrais vous demander le plus brièvement possible, mais avec la concision dont vous êtes, je dirais presque professionnellement, un virtuose, de nous exposer... Non, il y avait une faute de français terrible, d'ailleurs, mais c'est pas grave, on fait comme si on l'avait pas entendu. De nous exposer les motifs spirituels, le sens spirituel de cette réunion. Et ensuite, on demandera, je crois qu'il va être cantonné dans cette tâche jusqu'au dernier moment, à Philippe Delongeau de nous dire, voilà, rendez-vous à tel endroit, voilà ce qu'il faut faire, etc., etc.
Alors, en effet, pour rendre mémoire à tous ceux, hommes, femmes et enfants, qui se sont battus pour Dieu et le roi, ou qui sont tombés victimes des massacres décidés par le gouvernement révolutionnaire sur l'ensemble du territoire français, de nombreux Français, fidèles à leur passé, donc, se regrouperont le 22 mai 1993, et pour commémorer ces événements dramatiques, le lieu qui est donc le Mont des Alouettes en Vendée, et la date choisie le samedi 22 mai 1993, ont valeur de symbole, la forme retenue donc est celle du recueillement, et la manière celle d'un grand rassemblement populaire. Alors ainsi que vous le disiez tout à l'heure, le grand rassemblement du 22 mai, c'est donc un rassemblement apolitique bien sûr, populaire et familial. Bien. Alors, la spiritualité de la journée, comme vous le disiez, c'est quelque chose d'essentiel. Toute la journée est axée autour des deux pôles qui finalement étaient l'axe autour duquel tournait la société française à la veille de la Révolution, c'est-à-dire Dieu et le roi très chrétien. Parce que finalement, la société tournait autour de ces deux grandes valeurs avec un grand V. Alors c'est la raison pour laquelle des hommes libres de partout en France ont voulu commémorer d'une manière claire, dans un lieu bien précis, et quel lieu si ce n'est celui donc du Mont des Alouettes en Vendée, ces événements. Alors, en fait, la spiritualité de la journée tiendra donc essentiellement dans la grand-messe, qui sera la messe, entre guillemets, dans les bois. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? La journée du 22 mai, c'est une communion charnelle des Français qui se souviennent, donc dans le recueillement, 200 ans après, de cette terre particulière de Vendée, mais des autres terres de France, qui ont été abreuvées du sang des combattants et des martyrs. Donc, pour bien vivre et se ressourcer, il faut qu'il y ait une pierre angulaire. Et la pierre angulaire, c'est d'aller vivre ce bicentenaire sur place, dans les bois, dans les genêts, où se sont sacrifiés énormément de combattants et de femmes, d'enfants, pendant tous ces événements de 1793, 94, etc. Donc, il était évident qu'il fallait organiser la grand-messe autour de la messe dans les bois, qui est celle qu'ont connu nos aïeux, qui ont connu les combattants en question, qu'ont connu les martyrs. Nous ne faisons pas de fixation sur un rite particulier, mais il est bien évident que pour être en communion charnelle donc et spirituelle avec tout ce qui s'est passé en Vendée notamment, mais ailleurs en France également, il faut revivre les événements dans leur aspect religieux tel que cette messe était célébrée à l'époque, tel que l'ont vécu les combattants, les paysans avant de partir au combat, tel que les familles le vivaient avec les prêtres clandestins dans les genêts et dans les alliés, et par conséquent la grand-messe de 11h du matin est absolument essentielle. Et alors, c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à ériger une stèle sur le Mont des Alouettes lui-même, ce qui n'a pas été une mince affaire, parce que c'est un paysan descendant des vrais paysans vendéens, qui nous a prêté les 6 hectares de prairie au Mont des Alouettes, qui nous a pratiquement vendu pour un franc symbolique 800 mètres carrés pour ériger la stèle. Donc ce paysan, finalement, la boucle est bouclée. 200 ans après, on se retrouve une fois de plus directement au contact du paysan qui est le même, qui est l'arrière-arrière-petit-fils de celui qui est parti se battre. Et cette stèle sera hautement symbolique, parce que il y aura, bien sûr, elle sera en granit, il y aura des sculptures très belles, il y aura sur une face l'effigie de Louis XVI sculptée dans le granit, des Sacré-Cœur, évidemment des fleurs de lys, et surtout il y a une phrase du testament de Louis XVI qui figure en dessous de l'effigie et qui est « Je pardonne à mes ennemis ». Ce qui veut dire que donc on relie directement 1993 à 1793 aux deux pôles, Dieu premier servi d'abord, et le roi très chrétien, puisque on a quelquefois tendu à occulter depuis un siècle le roi très chrétien, mais les deux pôles, encore une fois, c'était bien Dieu et le roi très chrétien. Donc voilà pourquoi ce côté spirituel est essentiel, et il faut absolument plonger dans cette spiritualité pour communier, et le meilleur moyen, c'est de rendre évidemment
chouane, voilà, disons-le.
Chouane et vendéenne, puisque je pense au nord de Loire et vendéen. Voilà. Mais enfin, ce sont des frères et sœurs, hein, et aucun bien problème. Sûr. Et alors, bien évidemment, il faut que nous nous retrouvions des dizaines de milliers, j'allais dire, le samedi 22 mai, au Mont des Alouettes.
Entre nous, Daniel, moi je pense à la tronche que doivent faire les gros malins qui, il y a 3 ans, on dit, ou 4 ans, on dit, on va leur en coller plein la pipe avec le bicentenaire. C'est en train de se retourner complètement contre eux, et c'est bien plus rigolo.
Et c'est pas fini, c'est bon. On fait que commencer à rigoler, parce qu'il y a 93 qui est une année très forte, puis il y aura aussi 94, et puis encore d'autres années derrière.
Non, mais on a le temps de leur rappeler quelle cohorte d'imbéciles sanglants ont massacré ce pays pendant 10 ans. Ils n'ont pas fini d'en entendre parler. Si vous permettez, vous avez une minute.
Oui. Maximum. Si vous permettez, je voudrais quand même relire quelque chose d'extrêmement beau, qui est un fragment de la déclaration de Monseigneur le Duc d'Anjou et de Ségovie, qui a fait un voyage dans les provinces de l'Ouest le 19 novembre 1972. Et voilà ce qu'il disait dans sa proclamation. « En ce haut lieu, donc le mont des Alouettes, qui rayonne sur la Vendée et la France tout entière, je pense à la nation toujours déchirée de mille façons par les suites de la Révolution contre laquelle ont lutté avec honneur et parmi tant d'autres les vaillants fils de l'Ouest. » Et il ajoutait ceci. Ce successeur de Clovis, de Charlemagne, de Saint-Louis, de Louis XIV, je persiste à croire en la résurrection de la France. Je prie Dieu qu'il hâte le moment où elle reviendra à tout ce qui a fait son ancienne gloire. Donc voilà ce que disait Monseigneur le Duc d'Anjou et de Ségovie il y a 21 ans, et c'est au fond, ça relie le côté spirituel dont on parlait tout à l'heure, et c'est donc un appel aussi aux jeunes, c'est un message à la jeunesse pour revivre le 22 mai.
Je serais bien étonné qu'il n'y ait pas deux ou trois jeunes le 22 mai.
Peut-être quatre ou cinq.
Merci René Dureau. Alors je me tourne maintenant vers l'organisateur de la victoire, qui est Philippe Delongeau, qui va nous dire comment on peut aller là-bas, etc. Je crois que le micro fonctionne maintenant. Vous faites un essai, Philippe Delongeau?
Oui, je crois que ça.
Voilà.
Quelqu'un nous a dit que ça marche.
Voilà, c'est formidable. Il faut que vous approchiez bien et ça marche.
Alors comment va se dérouler cette journée? À partir de 9h, le site est ouvert au public.
Ça marche, mais pas très bien, faut bien dire. Hein. Vous allez peut-être changer de micro quand même, voilà. Parce que il marche, il fonctionne, mais pas dans des conditions satisfaisantes. Voilà, là, ça va beaucoup mieux.
Voilà. Le site est ouvert au public, entrée gratuite et parking gratuit. À 10h, accueil de la presse au centre presse et ouverture des stands. 11h, messe en plein air. 12h45, inauguration et bénédiction officielle de la stèle commémorant cette journée du bicentenaire. 13h, déjeuner champêtre. 15h, conférence, spectacle, évocation historique sur les différents soulèvements. 19h, dîner. 20h, veillée animée par la Vendée militaire et feu de camp. Comment maintenant pouvoir participer à cette journée? Il faut vous inscrire. Cela permet à l'organisation de cette manifestation de savoir combien vont venir et par quels moyens de transport. Mais il n'y a pas de droit d'inscription à payer. Pour ce faire, contactez le plus tôt possible François Dupré, 10 rue Édouard de Taille, 92 100 Boulogne. Téléphone de province, vous faites le 1, 46 08 18 15. En télécopie, 46 21 22 30. François Dupré vous adressera en retour le dépliant du 22 mai avec son bulletin d'inscription. Sur ce dépliant, vous avez aussi la liste des responsables de province si vous souhaitez partir d'un point qui soit plus proche de votre domicile. À partir de Paris, plusieurs formules vous sont proposées sous la forme de forfaits car-hôtel. Tous les cars partiront de l'esplanade des Invalides, métro Invalides ou la Tour Maubourg, point d'embarquement devant la grille de l'hôtel des Invalides. Tous les hôtels sont à Cholet, qui se trouve à 25 km du Mont des Alouettes. Inscrivez-vous donc vite, car nous avons besoin de confirmer le plus tôt possible toutes ces réservations. Pour ceux qui partent de Paris, François Dupré a prévu en liaison avec une agence de voyage, à des prix très étudiés, plusieurs formules. Une formule simple de transport partant le 21 mai à 18h, vendredi donc, ou le samedi 22 mai à 6h, avec un retour le dimanche 23 mai sur Paris. Et là où les deux nuits sur le site en campement. Il vous faut donc amener votre couchage. Le coût ne dépasse pas 240 francs par personne. Ensuite, vous avez également trois formules avec nuit en hôtel. Les chambres individuelles sur option comportant un supplément. D'abord, la formule numéro 1. Départ le 22 mai à 6h. Retour le 23 mai en fin de journée à Paris, après une visite organisée de haut lieu de la Vendée militaire. Prix moyen, 600 francs suivant les hôtels. La deuxième formule, départ le 21 mai, vendredi, à 18h. Retour le dimanche 23 mai en fin de journée. Visite également des hauts lieux de la Vendée militaire, prix 790 francs. La formule numéro 3 vous propose un départ le jeudi 20 mai à 8h, visite excursion en Vendée les 20, 21 et 23 mai, retour à Paris le 23 mai en soirée, prix 1650 francs. Toutes ces formules, vous les recevrez sur demande auprès de François Dupré, dont je répète les coordonnées, 10 rue Édouard de Taille, 92 100 Boulogne, téléphone 1 46 08 18 15, télécopie 46 21 22 30, que je vous demande de contacter le plus vite possible. Dernier cas de figure, vous pouvez vouloir venir par vos propres moyens en étant totalement autonome sur le plan de l'alimentation. Point besoin alors de versement d'art ou de réservation de plateau repas, comme le prévoit le bulletin d'inscription. L'important, c'est que vous veniez le plus nombreux possible. Enfin, vous pouvez recueillir toutes les informations sur cette journée en faisant le 3615 Bourbon sur votre Minitel. Bonsoir et à très bientôt.
Merci. Je rappelle également qu'il y a une autre façon d'aller là-bas. C'est de téléphoner au 39 69 73 04. C'est Jacques Plasson qui organise, dans le cadre de l'association Credo, un pèlerinage en Vendée militaire du 20 au 23 mai, pèlerinage dans lequel sera inclus la journée au Mont des Alouettes. Un mot.
Oui, juste quelques secondes, si vous permettez, Serge. Voilà, pour la stèle dont j'ai parlé tout à l'heure, si jamais, je suis certain que la plupart des auditeurs vont se rendre le 22 mai au Mont des Alouettes, mais si jamais certains ne pouvaient pas physiquement s'y rendre, ils peuvent souscrire à l'érection de la stèle, parce qu'évidemment, nous n'avons aucune subvention, puisque nous sommes des hommes libres et des femmes libres. Et à ce moment-là, il faut envoyer vos dons à l'adresse suivante, la mission... 85 140 Saint-Martin-des-Noyers. Je répète, la mission 85 140 Saint-Martin-des-Noyers. Merci.
Merci. Le morceau qui suivait, mais ce que vous venez d'entendre, c'est Domine Salvum Fac Regem. C'est une très très belle chose, ma foi. Chante bien cette dame. C'est une dame ou un monsieur qui chante? Parce que c'est une dame, oui. Alors, si vous voulez vous asseoir, messieurs, non, je vais vous demander d'opérer un glissement. Voilà, comme ça, c'est très bien. Toujours à cause de ce problème de micro, nous sommes pauvres comme Job et nos micros fonctionnent, enfin, un micro fonctionne mal. Donc, monsieur et madame Deshoux, docteur Deshoux, d'ailleurs. Et il faudra que vous utilisiez un micro, mais comme vous êtes marié, que vous exercez la même profession, vous pouvez très bien partager le micro. Il y a un problème, non, monsieur? Bon, ça va. Je demande à Jérôme, le technicien. Alors, on va peut-être commencer par l'écologie. Et puis ensuite, on parlera du très beau livre de Daniel Raffard de Brienne, consacré au Saint-Suaire. Mais l'écologie, c'est la santé, c'est le titre du livre de Suzanne et Pierre Déhoux, qu'on connaît, qu'on a déjà reçu ici, qui nous avait longuement parlé de ce passionnant sujet qui est la santé des maisons. Comment certaines maisons sont ou ne sont pas en bonne santé. Et là, vous avez développé, docteur Déhoux, votre propos. Vous l'avez étendu à l'ensemble de la maison humaine, qui est la planète Terre. Et vous avez écrit un livre, tous les deux, Suzanne et Pierre Déhoux, l'écologie, c'est la santé. L'impact des nuisances de l'environnement sur la santé. Alors, donc l'écologie, ça peut être autre chose que des petits hommes en vert qui font les imbéciles sur des tréteaux politiques, non?
L'écologie, c'est au sens étymologique du terme, c'est l'étude de la maison. Oikos, c'est la maison en grec. Et le terme vient d'un savant allemand, Haeckel, qui a défini cette science pour étudier l'environnement des petites bêtes, car on ne peut pas étudier l'animal ni l'homme lui-même sans faire allusion à son environnement. Nous avons fait un travail donc de recherche personnelle au niveau des maisons expérimentales, et là nous avons produit dans ce livre l'état des connaissances scientifiques qui sont aujourd'hui traitées dans le monde entier, surtout en littérature anglo-saxonne, dont ma femme a été la traductrice et qui a mis en œuvre cet ouvrage.
Alors, je crois que c'est la première fois que paraît une somme de cette importance et d'une conception aussi directement utilisable par le lecteur. Parce que en général, les bouquins sur l'écologie, c'est soit des divagations de politique. Oui, enfin, Monsieur Pasquier, je vous demande pardon. Je sais que ce que je dis vous blesse. Monsieur Pasquier est un écologiste distingué, mais spirituel dans tous les sens du terme. Alors, les gens, souvent l'écologie, c'est une divagation bavarde. Là, c'est vraiment, on pourrait dire, un guide de l'écologie, un guide de la santé utilisable directement. Et on voit bien la façon dont les chapitres sont comment dirais-je, disposés. Par exemple, comment identifier les affections induites par l'environnement? Et alors, on voit le développement de la méthodologie par l'observation, par les visites au domicile du patient, par les marqueurs biologiques, les mesures instrumentales, l'épidémiologie, etc. Bon, ensuite, alors, on étudie toutes les différentes pollutions des différents éléments qui nous entourent, l'air, la terre, l'eau, etc. Donc, c'est un livre très, très précis. Est très utilisable, un peu comme un livre de cuisine en quelque sorte, non?
Bon, on a voulu surtout essayer de faire l'inventaire de tous les paramètres de notre environnement quotidien. C'est au quotidien.
C'est toujours nos histoires du micro. C'est celui-là qui est bon.
D'accord, merci. Bon, donc, il est certain qu'on a voulu, au départ, notre but, nous nous intéressons particulièrement à une pollution des années à venir, c'est-à-dire la pollution électromagnétique. Parce que, depuis la guerre, on s'est intéressé surtout à la molécule chimique. Donc, on s'est intéressé à la pollution chimique. On en a parlé, bon, on ne sait pas tout, mais disons que déjà, l'inventaire est déjà un peu fait. Mais par contre, sur la pollution électromagnétique, les études sont très, très embryonnaires. Donc, c'était d'abord notre but. Mais, comme nous sommes aperçus que, en ce qui concerne environnement et santé, les études sont très fragmentaires et les gens ont une opinion sur un paramètre de notre environnement, mais pas sur tout. Donc, en ayant commencé sur la pollution électromagnétique, après on s'est dit non, on va encore faire un ouvrage trop fragmentaire. Il faut avoir une vue globale, d'autant qu'en environnement, ce qui est très important, c'est qu'il y a une synergie des différents facteurs. Donc, étudier un paramètre seul, ça ne sert à rien parce qu'il faut les étudier les uns avec les autres parce qu'ils potentialisent leur effet. Donc ça, c'est très important. Par exemple, je peux donner un exemple, l'ozone. Si on s'occupe de l'ozone simplement, soit de l'ozone que nous avons à l'extérieur, soit l'ozone produit par les photocopieuses dans notre environnement du bureau, l'ozone seule est déjà agressive pour les voies respiratoires, mais en plus, elle potentialise l'effet des allergènes, c'est-à-dire qu'un asthmatique en sera encore plus sensible s'il est en présence d'ozone. Bon, c'est un exemple.
Alors, est-ce que ça veut dire, quand vous parlez de pollution électromagnétique, que Radio Courtoisie contribue à la pollution?
On a choisi pour la FM, pour véhiculer l'information en FM, des fréquences où le corps, justement, est le plus réceptif du fait de sa taille. Notre corps humain est une véritable antenne. Du fait de notre taille, nous sommes soit en quart d'onde, soit en demi-longueur d'onde par rapport aux longueurs d'onde de la FM. Et il est certain que c'est un des polluants des zones urbaines, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'en voulant dépolluer les esprits, on pollue les corps.
Oui, il faut nuancer quand même tout. Il y a une hiérarchie dans les pollutions.
Voilà, c'est ça que je voulais. Je vous remercie d'ailleurs de répondre aussi rapidement à ma sollicitation. Parce que, effectivement, on a tendance dans le domaine de l'écologie à uniformiser tout ça, à ne plus faire de hiérarchie dans les dangers.
Alors, en écologie, bon, pourquoi nous avons voulu ce titre qui est un peu provocateur, qui pour certains évoque une certaine méfiance, de voir l'écologie, c'est la santé. Certaines personnes peuvent avoir quelque inquiétude avec un titre pareil. Mais justement, nous avons voulu redonner des lettres de noblesse à une véritable écologie. Et pas laisser ce mot uniquement, comme vous disiez, aux petits hommes verts. Il faut savoir que la polarisation sur le microbe depuis Pasteur, on ne s'est plus occupé du terrain, du patient, et encore moins de son environnement. Et maintenant, bien sûr, du fait de la dégradation de notre environnement, on est bien obligé de s'en occuper. Donc, on a voulu redonner à l'écologie son sens noble de science de l'habitat. C'est pour cela qu'on a voulu surtout diffuser l'adjectif écologue plutôt que écologiste, puisque sémantiquement écologiste va mieux avec écologisme et avec écologie va mieux écologue. Donc on est des médecins écologues, on travaille avec des architectes écologues.
Il est bien clair que l'écologue est quelqu'un qui s'intéresse réellement à l'écologie, tandis que l'écologiste c'est quelqu'un qui essaye d'en faire un sujet d'agitation
politique,
un fonds de commerce. Et une chose que je dois dire, moi, parce que vous ne le direz pas forcément, c'est que votre livre, votre action, votre recherche, et la chose est rare dans ce domaine, est inspirée par une véritable spiritualité. C'est-à-dire que vous considérez que l'homme est le dépositaire d'un trésor que Dieu lui a donné en dépôt, en quelque sorte, et que l'écologie, c'est un devoir de chrétien et de catholique, je pense.
C'est important, bien sûr.
C'est important,
Pierre. Je laisse un peu la parole à mon mari, parce qu'on va dire que les femmes sont bavardes.
Après, il va pleurer.
Oui, il est certain que nous avons là une mission particulière, et en particulier, nous, personnellement, en tant que médecin, nous sommes intéressés à ça. Nous avons vendu nos clientèles pour nous dédier à cet aspect plus global de la personnalité humaine, vu dans son environnement. Il est évident que là-dessus, nous aurions pu aussi greffer un environnement psychologique, mais alors là, c'était la bouteille à l'encre, et c'était très dangereux. Et en restant tout à fait objectif et scientifique, nous avons là des moyens pratiques que nous voulons donner aux gens pour qu'ils gèrent eux-mêmes et qu'ils se prennent en charge eux-mêmes, qu'ils n'attendent pas tout de la collectivité. En ce sens, cette démarche est un peu, disons, spirituelle, parce que nous disons aux gens, commencez à défendre votre environnement quotidien vous-même, et ensuite vous pourrez infléchir les pouvoirs publics à des dispositions plus générales.
En fait, c'est un livre qui rentre tout à fait dans le cadre de notre famille. J'ai l'habitude d'employer ce mot, parce que c'est un livre qui dit aux citoyens, ou à l'homme, à l'individu, commencez par vous prendre en main vous-même. Assurez, par exemple, dans le domaine de la formation, le livre ne le dit pas, mais c'est la même chose. Dans le domaine de la formation, si vous voulez vous dépolluer, il faut que vous fassiez ça vous-même. Vous ne pouvez pas espérer que la dépollution viendra de ceux qui sont les agents polluants. Mais dans le domaine de la pollution pratique, physique, matérielle, c'est la même chose. Et l'intérêt de ce livre, c'est que, je l'ai dit, c'est un véritable guide. C'est-à-dire qu'on vous explique, premièrement, comment on identifie une pollution, et ensuite, comment on peut se prémunir contre elle, s'en défendre, s'en protéger ou la supprimer.
C'est ça. On a voulu surtout, et c'est la conclusion de notre livre, la conclusion s'intitule « Gérer la peur ou gérer les risques ?» Parce qu'actuellement, dans tous les technocrates, ne s'occupent que de gérer la peur. Il faut surtout pas faire peur aux gens, il faut surtout pas leur dire, donc il faut surtout pas informer. Donc, pour gérer le risque, la première chose à faire, c'est d'abord d'informer. Donc, il faut en l'état actuel des connaissances, avec beaucoup d'humilité, parce que malheureusement, on ne sait pas encore grand-chose, il faut informer de ce que l'on sait à l'heure actuelle. Et avec l'information, donner des moyens de prévention. Et donc, à chaque chapitre, comme vous le dites, et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est donner à chaque chapitre les moyens de pouvoir corriger tel ou tel paramètre de son environnement quotidien dans la mesure du possible.
Est-ce qu'il y a une fatalité de la pollution ?
Ah, c'est une question, c'est sûr. Je crois que dans, si on met le progrès comme mythe, il y aura la fatalité de la pollution. Et c'est très délicat comme position, parce qu'il faut savoir tirer les bénéfices d'une société industrielle et quand même accepter des limites. Or, justement, il ne doit pas y avoir de limites pour certains au progrès.
Je vais pour prendre un exemple un peu terre-à-terre. Évidemment, on peut dire que notre vie est moins polluée, est plus, beaucoup plus polluée que celle de nos arrière-arrière-grands-parents. Bon, mais on peut dire aussi que nos arrière-arrière-grands-parents vivaient souvent dans des cahutes à côté du tas de fumier et chauffés par la chaleur animale de l'étable ou de l'écurie ou de la bergerie, ce qui n'était pas parfaitement sain probablement, alors que nous on vit dans un environnement qui est nickel, javelisé, et que la pollution vient presque au contraire d'un excès de propreté. On voit qu'est-ce qui pollue les eaux à l'heure actuelle, c'est essentiellement les déterminants.
Oui.
Qui sont des engins pour faire du propre.
On a changé le type de pollution. On a abandonné les pollutions microbiennes, mais on est passé à des pollutions chimiques. Et même au niveau des pollutions chimiques, on n'est plus au niveau des pollutions du milligramme, mais des pollutions du microgramme. Nous sommes dans les micropollutions. Et qui ont un impact important. Le plomb, les métaux lourds, le cadmium, l'aluminium, tous ces métaux-là, à des doses infimes, ont une répercussion importante sur la santé.
Voilà, pour en savoir plus, la meilleure solution, c'est d'acheter ce livre qui est paru aux éditions Frison Roche. C'est le célèbre montagnard.
C'est le cousin du montagnard. Et si je peux peut-être me permettre d'annoncer, si des personnes sont intéressées par une conférence demain au Salon international des écotechnologies et de l'environnement, au CNIT, à la Défense, donc demain, jeudi 6 mai, à 15h, nous faisons donc une intervention sur pollution de l'air et santé.
Tous les deux.
Oui, je vois. En cocktail, oui.
Bon, est-ce qu'il aura le droit de parler un peu plus que ce soir ?
Non, je peux parler de l'aspect technique qui m'est réservé, alors que davantage l'aspect mise en forme, traduction est le lot de ma femme. Et nous avons mis au point des petits détecteurs qui vont rendre service, nous pensons, au public, qui permettent de dépister le seuil de pollution magnétique, qui donne le facteur de risque au-delà de 2,5 milligauss, qui d'après les études épidémiologiques et notre expérience, semble assez significatif et dangereux pour la santé, surtout des enfants.
C'est une pollution qui vient de quoi ? Alors des appareils électroménagers, des appareils
Alors tout ce qui est alimenté en général par l'électricité développe un champ magnétique en fonction du fonctionnement de l'appareil.
Alors comment peut-on se prémunir contre ça ? Une fois qu'on a identifié cette pollution avec l'appareil dont vous parlez,
alors la prévention est des blindages, en particulier avec du mu-métal, c'est ce qui est fait dans nos appareils de télévision, dans différents appareils aussi, les gaines pour les studios de radio, on ne se permet pas de faire des conducteurs qui ne soient pas bien blindés. Mais la prudence élémentaire, c'est de s'éloigner du champ magnétique qui traverse aussi bien la personne que les murs. Et il ne faut pas croire être protégé de son voisin par un bon mur en béton, même du plomb. Le champ magnétique passe comme dans l'air.
Donc vous avez mis au point un appareil qui permet d'identifier, de reconnaître...
Alors on appelait ça magnétique alerte pour donner aux gens cette alerte magnétique qui leur permettra de diminuer singulièrement les risques qu'ils peuvent avoir, en particulier au niveau du calcium dans le système nerveux, en particulier des altérations qu'il peut y avoir dans le fonctionnement de l'épiphyse, et avec ce que cela entraîne sur les métabolites de la mélatonine, sur la dépression, sur les leucocytes tueurs qui nous défendent du cancer, et sur aussi les problèmes de rythme biologique.
Bien, alors, pour en savoir plus, donc, on peut aller demain à Écosite pour vous rencontrer, soit juste avant, soit juste après la conférence que vous donnerez à 15h. C'est à la librairie du Forum, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, donc, à la librairie du Forum au CNIT de la Défense. Et on peut lire également votre livre, L'écologie, c'est la santé, paru aux éditions Frison-Roche. Alors, est-ce qu'il y a une adresse des éditions Frison-Roche? Oui, c'est 18 rue Dauphine. Quelle belle adresse. 18 rue Dauphine, 75 006, Paris.
Oui, il y a un téléphone, donc 40 46 94 91.
Merci Suzanne et Pierre Déhoux, et puis à bientôt.
Merci beaucoup.
Pour votre prochain livre. Monsieur Daniel Raffard de Brienne, bonsoir. Merci, voilà, vous me remettez ce livre intitulé Le secret du Saint-Suaire, et vous êtes venu en compagnie de monsieur Van Kovenberg, qui est le préfacier, s'il veut parler dans le micro, qui doit s'en approcher. Non, vous ne voulez pas parler.
Il a une communication à vous faire, on va parler d'abord du livre.
Alors, monsieur Van Kovenberg est le président fondateur, je crois, du CIELT.
Oui, c'est ça.
Qui est le
Centre international d'études sur le linceul de Turin.
Voilà. Alors, parlons donc de ce fameux linceul qui commence à être bien connu et qui nous a longuement occupé pendant plusieurs émissions. Vous avez réalisé, Daniel Raffard de Brienne, un livre qui fait le point ce jour.
Exactement, c'est une synthèse à jour de tout ce que l'on sait sur le linceul de Turin ou Saint-Suaire. C'est un livre grand public, qui ne comporte pas de développement scientifique compliqué, mais qui donne tout de même la synthèse de tous les résultats obtenus jusqu'à présent. Alors, je l'ai intitulé « Le secret du Saint-Suaire », parce que le problème majeur, c'est la façon mystérieuse dont s'est formée l'image sur le tissu.
Oui, il y a plusieurs grandes questions qui se posent. La question de l'historicité.
Oui.
Et puis
qui est bien avancée.
Et puis la question de la fabrication.
Oui. Alors il y a plusieurs choses. Il y a le problème du tissu lui-même, sa datation précise, et ça on possède par l'analyse du tissu, de sa fabrication, les fibres, le tissage, etc., qui permet de situer de manière très précise dans l'Antiquité du Proche-Orient. Puis alors, il y a tout ce qu'il y a sur ce tissu et qui fait l'objet, évidemment, de développement. Quant à l'historique, bien sûr, il est développé aussi parallèlement à l'iconographie qui en est le complément.
Alors, j'allais dire justement que ce livre a toutes les allures extérieures d'un guide du Saint-Suaire, puisque il prend point par point l'articulation de l'enquête ou du raisonnement sur le Saint-Suaire, c'est-à-dire le Saint-Suaire lui-même, la médaille du pèlerinage de Liret qui a son importance, le Saint-Suaire et son négatif, le négatif de la face, le suaire de Besançon, la croix orientale, le mendilion, ça c'est toutes les illustrations qu'on va pouvoir voir. C'est-à-dire que ce livre est truffé d'illustrations qui sont à chaque fois parfaitement démonstratives, explicatives et très très précises.
C'est pas un gros livre comme vous le voyez,
non,
c'est assez facile et rapide à lire, voilà. Mais c'est complet.
Alors quant à la construction du livre, ça commence par une préface de Monsieur Van Kovenberg.
Excellente, je dois dire.
Et comment pourrait-il en être autrement?
Non, il prétend qu'elle est mauvaise.
Il réfute absolument.
Il prétend qu'elle est mauvaise, mais c'est pas exact du tout.
L'apparition du Saint-Suaire en Champagne.
C'est ça.
Ensuite, son itinéraire de Chambéry à Turin. Ensuite, c'est ce qui lui est arrivé au XXe siècle, sa redécouverte, la photographie, etc. Ensuite, la grande affaire, l'affaire du carbone 14.
Oui, j'étais obligé d'y consacrer un chapitre entier, un peu à regret, parce que c'est une affaire qui n'est pas intéressante en soi, mais enfin, il fallait tout de même régler ce problème-là, je l'ai fait.
Alors ça, c'est la première partie qui est intitulée, dont le titre générique, c'est le Saint-Suaire en Occident.
C'est ça.
Et alors, curieusement, vous n'avez pas respecté l'ordre chronologique, parce que la deuxième partie, c'est le Saint-Suaire en Orient.
C'est ça.
Et alors là, on a un chapitre sur l'origine du Saint-Suaire, comment il est venu de Constantinople, comment il a été à Constantinople, ensuite à Édesse, en réalité, là, vous allez à rebours.
Oui, je remonte l'histoire du plus connu au moins connu. C'est ça la démarche, finalement.
Et puis la troisième partie, ce sont les constatations scientifiques.
Voilà.
Et là, ça reprend un travail qui a déjà été fait d'une autre manière, d'ailleurs, notamment par...
Le frère Bonnet-Aimard.
Par le frère Bonnet-Aimard. Mais surtout, je parle de la réflexion qui avait été faite sur la méthodologie d'étude du Saint-Suaire qui avait été faite par
Lubaski.
Et notamment l'ensemble des constatations scientifiques dont les résultats sont à l'encontre du résultat du carbone 14.
C'est ça. Donc,
en fait, on a un éventail de résultats positifs et un seul résultat négatif.
C'est ça.
Sur lequel les adversaires de l'authenticité se sont appuyés
pour nier
la valeur de toutes les autres.
Et de manière exclusive. En réalité, je le montre, près d'autres d'ailleurs, tout est douteux dans cette histoire de carbone 14.
Alors, le autre intérêt de votre livre, c'est que, quand je dis c'est le point au jour dit, c'est-à-dire pratiquement toutes les découvertes les plus récentes sont recensées.
C'est ça. Oui, absolument.
Quelle est, à votre avis, la découverte la plus récente qui vraiment joue un rôle déterminant dans l'authentification du Saint-Suaire?
À mon avis, c'est une découverte qui est récente, mais enfin qui remonte quand même aux travaux du Sturp. C'est la nature de l'image. La nature d'une image qui est une oxydation de la cellulose, de la surface des fibrilles du lin, très précisément. Autrement dit, une roussissure. Je pense que c'est ça. La découverte restante la plus déterminante. Alors, au point de vue historique, il y a des découvertes beaucoup plus récentes. L'histoire bouge pas mal, parce que là, l'histoire a un intérêt par rapport aux découvertes scientifiques, c'est que la science doit se pencher sur le linceul, et on ne le sort que très rarement. Tandis que l'histoire, ça se trouve dans les archives, ça se trouve partout. De même, l'iconographie, c'est accessible aux chercheurs. Alors donc la recherche historique est assez développée actuellement, il reste des points à déterminer, d'ailleurs c'est ce que je montre en cours de route, notamment le passage d'Orient en Occident. Mais il faut dire une chose, c'est que même si il n'y avait pas d'histoire du tout, les recherches, si on découvrait par exemple le linceul en 1993, les constatations scientifiques suffiraient largement à prouver son authenticité.
Mais il y a d'autres choses qui suffisent largement à prouver l'authenticité, et en tout cas qui démontrent d'une façon radicale la fausseté de la datation au carbone 14, et vous en donnez un exemple, quelques-uns des multiples exemples dans votre livre, à la page 76, c'est l'iconographie antique.
Oui. Toute l'iconographie du Christ, telle qu'on la connaît depuis au moins le 4e siècle, est prise au Saint-Suaire.
Alors c'est absolument saisissant. Donc on vous montrait sur une même page quatre photographies. Oui. La première photographie, c'est celle du visage de la Sainte Face sur le Saint-Suaire lui-même.
Oui.
La deuxième photographie, c'est une mosaïque de Daphni au XIe siècle.
C'est ça, après Daphni.
C'est-à-dire, je dis pour les enfants qui nous écoutent, le XIe siècle, c'est toutes les dates qui commencent par 1000. De 1000 à 1100, enfin à 1099. Oui, on va pas rouvrir le débat là-dessus parce qu'on en sortira.
Mais ça, ce sont des exemples. Mais en fait, il y a des documents beaucoup plus anciens.
Bien sûr.
On voit par exemple une mosaïque à Ravenne au 5e siècle,
Le troisième image, c'est une mosaïque de Tchefalou en Sicile du 12e siècle. Et la troisième image, c'est une icône slavone.
Je ne connais pas bien la date.
Qui n'est pas datée. Mais ce qui est absolument saisissant, c'est l'identité d'image. On ne peut pas douter une seule seconde que les auteurs de la mosaïque de Daphni, de la mosaïque de Tchefalou et de cette icône slavone, ont eu connaissance de la Sainte Face.
Ah, c'est certain.
C'est-à-dire qu'ils avaient vu, alors première chose quand même étrange, ils avaient vu le linceul avant le mandilion, disons le linceul pour pas compliquer les choses, ils avaient vu le linceul avant la date prescrite par ces messieurs du Grand Orient et du laboratoire je ne sais quoi réuni. Mais en plus, ils avaient identifié cette image, alors que nous ne l'avons identifiée que grâce à la photographie en négatif.
C'est-à-dire qu'on la connaissait, mais enfin, ce qui a frappé, c'est cette photographie en négatif, parce que l'image telle qu'elle se présente est elle-même un négatif sur le lin blanc. Et un négatif, c'est toujours très laid, on ne se rend pas compte de la qualité du positif.
Oui, quand personne. Je dis négatif, c'est parce que le négatif,
oui, c'est,
le négatif d'un négatif, c'est apparaître au positif.
Il faut inverser deux fois. Mmh. Alors, il faut savoir que la notion même de négatif n'existe que depuis l'invention de la photographie, c'est-à-dire depuis le 19e siècle. Donc personne, et aucun peintre d'icônes ou mosaïste, n'a pu avoir l'idée qu'il s'agissait du négatif d'une image superbe.
C'est pourquoi, en faisant abstraction de tout dans cette histoire, et en disant, bah, écoutez, oui, le carbone 14 donne une bonne datation, c'est-à-dire le 13e siècle, et donc c'est bien une fabrication humaine du 13e siècle, maintenant il faudrait nous expliquer comment un peintre ou un fabricant de faux linceuls au 13e siècle a pu se dire, tiens, comme ils vont découvrir la photo à la fin du 19e siècle, je vais te leur faire un truc en négatif, ça va quand même pas mal les troubler.
Oui, exact.
Parce que c'est ça le raisonnement du gars.
Oui, bien sûr, mais de toute manière, même les gens qui soutiennent encore la datation carbone 14 telle qu'elle a été faite, eh bien, reconnaissent que ça n'est pas fait de main humaine. Ce n'est pas, il n'y a pas le moindre colorant, le moindre pigment, la moindre peinture, le moindre mouvement de la main ou d'un instrument.
Alors, je bavardais à propos du carbone 14 l'autre jour avec un jeune chercheur de l'ANRS, l'Association pour une nouvelle recherche scientifique, que j'ai reçu de temps en temps ici, et il me disait que récemment des expérimentations au carbone 14 avaient été faites sur des bois de serre, d'où il était ressorti que le cerf était mort en l'an 2500, c'est-à-dire que la charge en carbone 14 est telle que ce cerf, dont on a examiné les bois, ne mourra que dans 5 siècles.
Oui.
Je voudrais bien dire deux mots.
Oui, monsieur Van Kovenberg, vous avez la parole.
Ça, c'est très important parce que quand on parle carbone 14, on ne sait pas de quoi on parle. Le carbone est donc un élément, est un atome qui se trouve engagé dans la nature de différentes manières. Je vais prendre les deux extrêmes. Vous trouvez du carbone dans le lin, vous avez un mouchoir. Il est fait de cellulose. Il y a du carbone. Et ce carbone, pourquoi je prends la cellulose? Le bois que vous avez ici contient de la cellulose, et cette cellulose, quand on a du carbone, a un carbone qui se trouve être dans des conditions les meilleures de conservation à travers les siècles. C'est d'ailleurs, vous savez que les séquoias sont des arbres qu'on trouve en Amérique, et qui peuvent avoir jusqu'à 3000 ans. Et c'est quand on coupe ces séquoias qu'on arrive, par les sept concentriques, à déterminer le carbone 14, parce que le carbone de la cellulose se conserve très bien au cours des siècles. Mais le carbone, vous le trouvez également dans des coquillages. Or, le carbone et les coquillages sont des carbonates. Et l'arrivée du carbone dans les carbonates n'est pas du tout la même chose que le carbone dans la cellulose. Pourquoi ? Et bien sûr dans des cornes, dans des os, parce qu'il peut y avoir des séparations isotopiques au moment de la formation des os et de ces coquillages. On vous démontre très facilement que des coquillages peuvent avoir des âges carbone 14 complètement aberrants. Tout le monde le sait. C'est la raison pour laquelle, quand on parle carbone 14, on ne peut pas dire « Ah, des cornes de cerf donnent le carbone 14 aberrant ». Parce que c'est le mauvais exemple. Il faut savoir de quoi on parle. On ne prouvera jamais qu'un tissu de lin, un bois bien conservé, va donner l'an 2500 ou 3000. C'est pour ça que c'est très important de savoir qu'est-ce que c'est que le carbone. Je m'arrête là-dessus, c'est très important. Parce qu'on dit carbone, carbone 14, et on ne voit pas la différence. Vous comprenez bien qu'un coquillage qui fait de carbonate, donc une molécule contient un atome de carbone, n'est pas du tout une structure chimique identique à celle de la cellulose, la molécule de cellulose.
De toute manière, nous ne mettons pas du tout en cause la technique du carbone 14. Ce que nous mettons en cause, c'est la manière dont elle a été appliquée dans ce cas précis. Et dans mon livre, je donne une petite indication sur cette histoire de carbone 14, sur la théorie, et surtout je relève un certain nombre des irrégularités qui ont été commises. Alors, ce n'est pas l'essentiel du livre.
Non, c'est pas l'essentiel.
C'est vraiment un épiphénomène, cette histoire de carbone 14. Elle ne mérite qu'une chose, c'est d'être oubliée.
Voilà, c'est un peu ce que j'allais dire, parce que c'est vrai qu'on en parle tout le temps, mais les auteurs de cette supercherie, eux, ont arrêté d'en parler depuis longtemps.
Je pense qu'ils profiteront du symposium de Rome pour en reparler, parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments.
Alors, ce symposium de Rome, vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez qu'on en parle maintenant?
Bien,
Je ne sais pas, c'est à votre, à votre convenance.
On va peut-être finir de parler du livre, et puis après, M. Ankorenberg pourra parler du symposium, d'autant plus que le livre, je l'ai fait à titre personnel pour ne pas engager le ciel, bien entendu.
Oui, ça c'est important de le préciser. C'est un travail personnel. C'est pas une édition du ciel. D'ailleurs, il est édité par les éditions de Chiré.
Voilà.
Que je salue au passage, puisque nous avons, nous fraternisons sur au moins un point avec les éditions de Chiré, c'est que dans notre, que nous avons gardé ou plutôt adopté le Sacré-Cœur comme signe de reconnaissance du journal, du libre journal de la France courtoise. Et qu'il est également le symbole des éditions de Chiré. Donc, une question sur ce livre. Dans les derniers travaux portent essentiellement sur quoi ? Parce qu'on a vu, ils ont porté sur le tissu, ils ont porté sur les pollens, ils ont porté sur l'examen de l'image, notamment la découverte, alors ça, il faut peut-être que vous en parliez, la découverte de pièces qui aurait été posé sur les yeux.
Oui,
est-ce que c'est avéré ? Est-ce que c'est douteux ?
Ça se situe entre les deux. Moi, j'en parle parce que les numismates sont tout à fait affirmatifs, mais je crois que ça a besoin d'être vérifié parce que c'est tellement important.
Oui.
L'information qui est donnée est tellement précise qu'il faut absolument la vérifier.
Alors, il faut
parce que les, vous voyez, ce qu'on aperçoit, les numismates aperçoivent sur les yeux deux pièces de monnaie. Ça, il est évident qu'il y a deux pièces. Seulement, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une partie des dessins et une partie des inscriptions. Et ces dessins et ces inscriptions correspondent à des pièces qui ont été frappées par Ponce Pilate en Judée en l'an 29. Mais alors, il faut dire que ce dessin et ces inscriptions sont difficiles à voir compte tenu des défauts du tissu tout de même, qu'ils apparaissent sur les photos. Alors, il faudra mettre au point des techniques lorsqu'on aura enfin accès de nouveau au suaire pour arriver à régler ce problème. Mais pour l'instant, il faut être très prudent.
Alors, vous avez écrit ce livre après plus d'une cinquantaine de conférences que vous avez données dans toute la France sur le sujet.
À peu près.
Est-ce que les assistants à vos conférences, est-ce que les auditeurs de vos conférences vous ont apporté des informations ou un éclairage sur la sensuelle, des informations que vous ne possédiez pas,
non,
ou un éclairage que vous n'aviez pas?
Non, jamais. Je connais bien la littérature sur le sujet, donc ils ne peuvent pas en trouver d'autres.
Et quel est le sujet, quelle est la façon d'aborder le sensuelle qui passionne le plus les auditeurs de vos conférences? Quelle est la grande question qui revient tout le temps, en dehors du carbone 14, qui doit être
Écoutez, les questions, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement parce que j'aborde les choses de manière assez complète. Et comme les questions ne surgissent qu'à la fin, et que je fais quelque chose d'assez complet, eh bien, ce sont des questions de détail, en général, qui n'ont pas. Et jamais de contradiction, jamais.
Oui, alors c'était la dernière question que je vais vous poser, la question des contradictions, jamais. C'est-à-dire que les contradicteurs, simplement, ne viennent pas vous voir ou repartent convaincus.
Je pense qu'ils n'ont plus d'objections à faire parce que j'y ai déjà répondu. Alors quelquefois, ils ressortent une deuxième fois, mais enfin, tout ça se règle très facilement sans aucun problème.
Alors, vous nous
parlez des gens de toute nature, de toute tendance, de toute religion ou sans religion. Et le résultat est le même.
Vous nous parliez tout à l'heure des travaux du frère Bonnet-Aimard. Vous en avez une connaissance approfondie, j'imagine que vous avez dû les lire et les relire. Quelle est leur importance à votre sens?
Ah, c'est très bon. C'est très bon. Il a fait l'histoire de carbone 14, notamment, il a joué un rôle tout à fait pilote, si j'ose dire. C'est lui qui a mis le doigt sur la principale irrégularité.
Oui.
Et il a poussé son enquête jusque dans les laboratoires qui ont fait ses essais. Donc il a fait quelque chose d'important. Alors pour le reste, eh bien, ces livres sont très intéressants parce que c'est une somme de connaissances qu'il a recueillies à droite et à gauche. Enfin, ce sont des choses connues, mais enfin qu'il a reprises. Non, ces livres sont importants. Ce que je regrette un tout petit peu, c'est qu'il ne les refonde pas pour en faire une synthèse.
Oui. Oui, c'est un peu dommage parce que c'est plus un document de travail que véritablement un livre.
C'est ça. Oui. Et que moi, c'est un peu l'inverse, si vous voulez. Vous n'avez pas toutes les références qu'il donne, mais j'ai au contraire voulu faire une synthèse qui soit abordable par tout le monde.
Daniel Raffard de Brienne. Merci. C'est un joli petit livre en plus. La couverture est fort belle.
Avec oui, ça, j'étais à chercher exprès.
Une illustration superbe qui est.
C'est une miniature de Della Rovere qui date du XVIIe siècle.
Giovanni Battista Della Rovere.
Exactement. Alors ce livre est sorti maintenant. On le trouve dans toutes les bonnes maisons que vous connaissez habituellement, c'est-à-dire Duquesne Diffusion, avenue Duquesne, le Signe de Piste, rue Saint-Sulpice, et d'autres, où on peut le commander, soit à Chiret, Diffusion de la Pensée Française. Alors ça coûte 82 francs. Je ne sais pas si ça les vaut, enfin ça les coûte, auquel il est bon de rajouter 20 francs pour le port, et on envoie 102 francs donc à Chiret, ou alors on envoie 102 francs de la même manière à Renaissance Catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 à Issy-les-Moulineaux, et là on aura en prime une dédicace, parce que j'y passe assez souvent.
C'est superbe. Merci Daniel Raffard de Brienne. Monsieur Van Covenberg, ce symposium de Rome se présente sous quels auspices?
Bien sûr, très bonne. C'est une grosse entreprise, bien entendu. Vous pensez bien que louer une salle importante à Rome, faire venir louer des traducteurs, louer le matériel, les chambres, les voyages, nous faisons venir non seulement des... Il n'y a pas des Italiens, il y a les Américains du Storr, vous entendez parler du Storr, bien sûr.
Bien sûr.
Bon, à l'heure actuelle, ce Storr qui a fait tous les travaux de 1978 et travaille étroitement avec nous. Ce sont des amis avec qui nous travaillons la main dans la main. Alors, bien sûr, il faut voir la chronologie des événements. Tout a commencé en 78 lorsque le Storr a fait ses travaux à Turin. Mais alors, à ce moment-là, la science française se désintéressait complètement des questions du Saint-Sphère. Alors, il a fallu les sensibiliser. Puis, il y a eu le carbone 14 en 88-89. Et ce fut l'occasion de réunir un symposium international à Paris en septembre 89. Puis après, la création du Skelt. La sensibilisation des gens pour et contre, les Français se sont réveillés en disant « Ah tiens, ce Sphère dont on a entendu parler ». Et puis ensuite, le tournant important, c'était le désir du Saint-Père, manifesté en 1990, de voir poursuivre les travaux et principalement la conservation. Et ça a été pour nous, en mai 91, il y a exactement 2 ans, la décision de faire un symposium à Rome, au voisinage du Vatican. Pourquoi? Eh bien, puisque le Vatican, le Saint-Père lui-même avait dit, il faut continuer les travaux sur le Saint-Sphère, nous sommes dit, notre place est à Rome. Alors ce symposium, il doit être la continuation du symposium de Paris, affiné, avec de nouveaux travaux. Je pense tout de même qu'il faut le citer, M. Raffard de Brienne est au courant. Je pense que nous pouvons parler du Codex Prae de Budapest. Je vais en dire 2 mots. C'est un problème qui est connu depuis pas mal de temps, mais qui avait échappé à la plupart des gens. Au milieu du XIIe siècle, un religieux, un jésuite hongrois, a découvert dans une bibliothèque un codex dont on ne connaît pas l'origine et sur lequel on voit une gravure, une miniature qui représente un Christ allongé sur un tissu. Il est allongé, les mains croisées, comme on le voit sur le Saint-Sphère.
Sans les pouces.
Deuxièmement, avec 4 doigts seulement. Troisièmement, sur une image, une autre image qui est à côté de ce Saint-Sphère, on voit grossièrement dessiner les chevrons, et à côté de ces chevrons, on voit 4 brûlures que l'on retrouve aujourd'hui sur le Saint-Sphère également, et disposées de la même manière. 1, 2, 3, comme un L. 1, et puis 3 autres. Or, ces brûlures, jusqu'à présent, on n'était pas intéressé, et on se rend compte que ces brûlures, elles correspondent à la réalité, on les voit aujourd'hui. Et alors, sur cette image, sur cette miniature du Codex Prae, qui donc a été découverte au XIIe siècle, il est possible qu'elle était antérieure, on voit un ange qui montre ces brûlures aux saintes femmes qui sont à côté. Ouais. Alors, nous pensons, je crois à bon droit, que cette image peut véritablement être une confirmation, une authentification du Saint-Sphère. Bon. Alors, Qui est-ce qui s'y intéresse? Bien sûr, M. Raffard de Boyenne s'y intéresse, puisque c'est lui qui, pour le symposium, va diriger les travaux historiques et ethnographiques, et également beaucoup le professeur Jérôme Lejeune, qui est membre de notre association de projet scientifique, alors qu'il s'y intéresse au plus haut point. Je crois qu'il doit être à Budapest aujourd'hui ou ces jours-ci pour essayer de récupérer des renseignements sur cette image même qui, paraît-il, est à la bibliothèque de Budapest, bibliothèque nationale de Budapest, l'ouvrage le plus important.
Alors, pour être complet, j'ajoute que mademoiselle le professeur Bongère, qui est professeur à l'Université des droits de Paris, fera également une communication à cheval sur celle du professeur Lejeune et concernant le manuscrit prêt, dont je parle dans mon secret des...
Lejeune se charge uniquement de tâches et de voir ce manuscrit prêt. Comme on ne peut pas avoir de documents le reproduisant, s'il y avait un document qui se trouve à la bibliothèque d'art et d'archéologie, qui malheureusement est en aménagement, qui ne sera réouverte à la Bibliothèque nationale qu'à la fin de l'été. Alors, il va y avoir ce codex prêt, sur lequel il y a non seulement la fameuse image, mais des textes à côté qui vont être explicatifs. Donc le professeur Lejeune va se cantonner dans ce petit créneau-là, et mademoiselle Bongère, avec monsieur Raffard de Boyenne, va traiter le problème dans son ensemble. Je considère, c'est un point capital de la recherche.
Oui, certainement. Certainement un point très important.
Alors, il y a d'autres points capitaux de la recherche, qui concernent le carbone 14, dont je regrette beaucoup, je ne peux pas parler aujourd'hui, parce qu'ils sont beaucoup trop graves, c'est ce que je veux parler.
Bien, alors, il faudra que vous venez nous en parler quand ce sera possible.
Parce que nous mettons en cause des personnes.
Alors on verra.
Pas aujourd'hui.
Prononcer
un seul nom.
Eh bien, quand vous pourrez le faire.
Nous avons un dossier explosif dont je m'interdis de parler.
Merci Monsieur Van Covenberg, merci Daniel Raffard de Brienne. Je rappelle le titre de votre livre, Le secret du Saint-Suaire, aux éditions de Chiret en Montreuil, bien entendu. Et pour terminer, comme d'habitude, les annonces. D'abord, une bonne nouvelle. Le père Denis Marshall a réapparu, si j'ose dire. C'est que vous ne connaissez pas le père Denis Marshall, qui était l'adorable colosse de Saint-Nic, et qui avait eu la mauvaise idée de monter directement au ciel à la suite d'un problème de voiture. Et donc, j'avais plus de nouvelles. Eh bien, je viens d'avoir des nouvelles. Il nous demande, par l'intermédiaire de ses parents, de bien vouloir faire savoir que les Dominicaines d'Avrier ont besoin de sous, parce qu'il faut absolument qu'elles achètent un terrain qui est voisin de leur clôture, autrement elles vont être embêtées tout le temps. Alors, le mètre carré de ce terrain vaut 50 francs. Si vous voulez acheter un mètre carré de ce terrain, il faut envoyer 50 francs, et elles ont besoin de 150 000 francs, parce qu'il doit y avoir, combien, 33 000 mètres carrés. C'est ça? Je suis incapable de faire des calculs. Alors, si vous voulez vous rendre propriétaire d'un mètre carré de terrain que vous offrirez aux petites sœurs, il faut envoyer des sous, 50 francs par mètre carré, à Mère Marie-Emmanuelle, Monastère Saint-Joseph, 10 rue Jeanne de Laval, 49 240, Avrillé. Voilà.
Alors, Chrétienté Solidarité annonce la conférence de Valrande Saint-Just, au musée social 5 rue Lascaze, Paris 7e, le jeudi 6 mai, à 20h30, sur le thème « La mascarade du soi-disant antiracisme va-t-elle continuer ?» Les dominicaines du Saint-Esprit et les parents d'élèves de l'association des parents d'élèves de l'institution Saint-Pidis ont le plaisir de vous inviter à la vente de charité au profit de l'institution Saint-Pidis les samedis 15 et dimanche 16 mai de 14 à 19h, 19 rue des Écoles à Saint-Cloud.
Et je rappelle les deux réunions de samedi à 10h à l'hôtel Nico, la réunion, le forum d'action française, et à 20h à la mutualité, la journée de la mémoire.
Et puis l'adresse du journal de Serge de Bekech. Comment s'appelle-t-il?
Le Libre Journal de la France Courtoise.
C'est 68 rue David d'Angers, dans le 19e, téléphone 42 46 77 33.
Le numéro 2 vient de paraître, le numéro 3 va paraître très prochainement. L'abonnement est de 600 francs. Voilà, je donne les précisions qu'on me demande.
Il y a une station de taxi auprès du lieu fixé pour le repas légitimiste, on nous a posé la question. Samedi 8 à 10h, ça vous l'avez dit.
C'est tout, je crois que c'est
tout. Et puis on vous avait demandé, mais ça ce sera pour une autre fois.
Oui,
oh,
bien
si,
sûr.
Si, erreur. Gauthier Guillet, le malheureux, n'a pas pu intervenir ce soir, mais il interviendra mercredi prochain.
Voilà, Gauthier Guillet fera sa revue de presse mercredi prochain. Et puis, naturellement, avant la fin de la dernière minute de l'émission, je salue la mémoire de Dervan Bergo, qui nous a quittés il y a 2 jours. Et Erwin Bergo, vous savez, c'est ce grand soldat et grand écrivain. Et on fera une émission sur lui avec ses amis, très prochainement.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria. Une émission du 5 mai 1993, rediffusée dimanche 23 mai 2010 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.